Bon, d'accord. Donc pour cette quatrième et dernière conférence de l'Install Party, nous accueillons donc Benjamin Bayard, président fondateur de FDN.
Absolument pas, juste président.
Ah pardon, je pense. Bon, bah, ça commence mal. Donc président de FDN et on va dire grand acteur de la neutralité en France.
Ouais, 1m77 quoi.
Et il va d'ailleurs nous parler de la neutralité des réseaux, impact d'Internet sur la société. Je n'en sais pas plus. Bon, je vous laisse la parole.
Ok, alors, il se trouve que cette fois-ci, la totalité de la présentation ne sert pas à expliquer ce que c'est que FDN, et encore moins la fédération. Donc du coup, je vais l'expliquer sur le transparent de titre. Est-ce utile ? Vous connaissez tous déjà FDN ? Il y a des gens qui ne connaissent pas ? Levez la patte, ceux qui connaissent pas. Il y en a au moins deux qui assument au premier rang. Donc, French Data Network est le plus vieux fournisseur d'accès Internet de France. C'est une association loi 1901 qui existe depuis 1992, qui fournit de l'accès Internet depuis une époque que la majorité d'entre vous n'a pas connue, vu la moyenne d'âge dans la salle. Comment vous expliquer ? On a vu sortir les premiers éléments de HTTP du CERN en 1993-1994. FDN fournissait de l'accès Internet avant le web. L'Europe a décidé d'ouvrir le marché des télécoms en 1996. L'autorité de régulation des télécoms s'est souciée d'abord de vendre du téléphone, puis éventuellement de faire un petit peu d'IP autour de 1997. Donc en fait, nous, on était fournisseurs d'accès Internet avant qu'ils s'intéressent à vouloir installer la concurrence. Ça permet de situer comme ça deux, trois éléments pour avoir en tête. Donc FDN, c'est très vieux. En 1992-1993, c'était un acteur majeur d'Internet. Internet en France était à l'époque composé soit d'acteurs universitaires, qui étaient en lien avec des universités aux États-Unis, soit d'acteurs privés, les acteurs privés étant essentiellement associatifs, et FDN, du haut de ses 180 abonnés, était un des plus gros fournisseurs d'accès Internet en France. Voilà. En 2013, du haut de nos 220 abonnés, alors on ne sait pas qu'on a seulement cru de 40 abonnés de 92 à 2013, hein, ça a beaucoup décru à un moment. On est maintenant un des plus petits fournisseurs d'accès, mais un des plus vieux. C'est très bizarre dans son mode de fonctionnement. C'est très particulier pour ceux qui n'ont pas bien la notion associative en tête. C'est une association loi 1901. Seuls les adhérents peuvent y être abonnés. Donc en fait, nos adhérents sont leurs propres fournisseurs d'accès. Il n'y a pas de clients à FDN. Il y a quelques clients. On a deux ou trois clients qui sont des gens à qui on vend des services et qui ne sont pas membres de l'association. Mais l'immense majorité, et en tout cas tous les gens qui sont abonnés à de l'accès Internet chez nous, ne sont pas des clients, ce sont des adhérents, ils sont l'association. L'association n'est jamais mieux incarnée que quand elle a mis tous ses adhérents dans une salle, on a mis une étiquette Assemblée Générale sur la porte et on décide de ce qu'on veut. C'est très curieux comme approche. Les politiques ont toujours un mal de chien à nous suivre. Il se trouve que, à force que je joue ma gueule en public, FDN commence à être un petit peu connu, et donc à avoir l'air de rien trop d'abonnés. Alors je vous rappelle quand même les standards du marché. Il y a des textes de l'ARCEP qui expliquent que vu le marché, les données économétriques, etc., etc., un fournisseur d'accès Internet ne peut être viable sur de l'ADSL qu'à partir d'un million d'abonnés. Vous voyez, nous à 200, ça va, on se porte très bien. On ne perd pas d'argent, on en gagne un peu. Si on ne se merde pas dans la gestion, on en gagne. Simplement, on a 200 abonnés, 400 et quelques adhérents à l'association. Ça commence à devenir un peu trop gros. Ça veut dire qu'en fait, tout le monde ne peut plus venir en AG parce qu'on ne trouve pas de salle assez grande pour que tout le monde puisse venir. Il y a des adhérents qui habitent trop loin, qu'on ne voit jamais, etc., etc. Et donc, on a lancé il y a quelques années un mouvement d'essaimage où on a décidé qu'on allait expliquer. Voilà comment on fait un fournisseur d'accès à Internet, voilà les technos utiles, voilà les docs à lire, voilà les choses à faire, voilà la procédure pour monter un fournisseur d'accès. Et puis, on a dit aux gens, voilà, faites-le, faites comme vous voulez, faites comme ça ou faites autrement, mais faites des fournisseurs d'accès. Et on a décidé de se fédérer. C'est-à-dire que ceux qui ont décidé de monter des FAI et qui ont envie de nous rejoindre, nous rejoignent au sein de la fédération FDN, où on est, aux dernières nouvelles, 16. Laurent, tu me reprends si je me gourre. De mémoire, on est 16. Donc on est 16 fournisseurs d'accès Internet associatifs en France. Voilà. Je vais essayer de vous parler, moi, de quelques enjeux politiques. Je n'avais pas envie de parler technique aujourd'hui, donc je n'ai pas amené de diapo technique. On va essayer de comprendre ce que c'est qu'Internet, ce que ça fait, comment ça marche, etc. Donc, pour poser l'introduction, j'aime bien, histoire qu'on se comprenne quand on parle, définir deux, trois mots. Alors, je vous rassure tout de suite, il y en a deux qu'on va zapper qui sont Internet et neutralité, parce qu'ils sont dans le reste de la conférence. Mais les autres, il faut quand même qu'on en parle un petit peu. Je ressors les Saintes Écritures. Il y a des mots que je ne connais pas par cœur. La partie facile, c'est définir ce que c'est qu'une société. C'est un truc qui est assez chiant. Si vous deviez définir la société humaine, vous définiriez quoi, vous ? Alors là, traditionnellement, politiquement, il y a deux grandes familles. Il y a les gens qui expliquent que c'est l'État. En général, on les classe plutôt à gauche. Il y a des gens qui expliquent que c'est l'économie et on les classe plutôt à droite, pour faire simple. Je ne suis pas d'accord avec cette définition. Une société, c'est la somme des interactions entre les individus. Point. Si vous prenez une somme d'individus, vous avez une somme d'individus. S'ils se mettent à interagir entre eux, vous avez une société. La société, c'est la somme des interactions entre individus, ainsi que toutes les règles qui découlent de cette somme d'interactions. À partir du moment où les êtres humains interagissent entre eux, et alors c'est très large interaction, hein, c'est quand on se parle, c'est quand on se touche, c'est quand on se tape, c'est quand on se fait la guerre, que ce soit économiquement ou militairement, tout ça, ce sont des interactions entre individus. Quand on décide de se doter de lois, de se doter d'un État, de se doter de... etc., ce sont des interactions entre individus. Donc une société, ça n'est que la somme des interactions entre individus. Si on essaye de définir ce qu'on admet couramment sous le vocable civilisation, en fait, on arrive toujours à la même conclusion. On a une civilisation à partir du moment où on commence à définir du droit qui protège les faibles contre les puissants. Si vous réfléchissez deux minutes, pour faire le contraire, il n'y a pas besoin de s'emmerder avec du droit. Donc en fait, on commence à parler de civilisation quand on commence à imaginer des mécanismes qui permettent de protéger les faibles contre les puissants. C'est toujours ça. Protéger les puissants contre les faibles, en général. On sait ce qu'on fait le plus souvent, hein, mais c'est pas très utile. Donc Internet, j'y reviendrai. Il y a plusieurs diapos pour définir Internet. Neutralité, même chose. Il y a quelques diapos pour en parler. Et il y a un élément que j'aime bien donner aux gens, parce que c'est un texte très désuet dont on ne se sert plus en droit français, mais qui reste, qui a l'avantage d'avoir été écrit et qui est en bon français. C'est l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui dit que la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Normalement, une fois que j'ai expliqué ça, il y a un moment, vous allez voir, je pose des questions dans le public, mais là, je n'aurai pas les réponses attendues, vous êtes trop jeunes. Pour l'immense majorité d'entre vous, vous êtes trop jeunes. Donc du coup, je zapperai mon effet de manche, je m'en servirai un tout petit peu plus tard. Bien, on va essayer de définir Internet. Alors, Internet est le réseau public adressé par le protocole IP, composé des 40 000 opérateurs interconnectés respectant les allocations de ressources rares de l'IANA et mettant en œuvre les protocoles applicatifs définis par l'IETF. Voilà. Limpide. Vous voyez tous de quoi on parle ? Bon, alors on ne va pas s'arrêter à ça comme définition. On va prendre une définition de journaliste qui est de dire qu'Internet est le réseau des réseaux. C'est plus joli, ça fait moins mal à la tête, mais on ne comprend pas mieux ce que c'est. Alors on va essayer de prendre une définition. Je ne vais pas vous le définir en fait. Je vais vous enlever plein d'idées fausses, puis vous verrez ce qui reste, ça doit être à peu près juste. Si vous avez cette idée qu'il existe une espèce de grand réseau international, un immense backbone à très très haut débit qui s'appelle Internet, et où vous achetez dans des petites épiceries locales, régionales, un accès, genre chez Orange comme épicerie, à ce grand réseau international. Et cette idée-là, par exemple, que vous avez probablement à peu près tous en tête, elle est parfaitement fausse. Elle est totalement fausse. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est plus voisin dans son fonctionnement du fonctionnement d'un corail. Donc si vous imaginez une épine dorsale à Internet, vous vous trompez, il n'y en a pas. C'est plus voisin d'un corail. Vous voyez, chez un être vivant, normalement, quand on le coupe en deux, au moins une des deux moitiés est morte. Okay, vous faites le test sur un être humain. Vous choisissez judicieusement l'endroit où vous faites la coupure. Et normalement, au moins un des deux bouts est mort, parfois les deux. Okay. C'est-à-dire que si on coupe à peu près là, il y a tout le bout qui tient le micro qui tombe, qui est mort. Et puis il y a le reste qui a une chance de survivre. Sur Internet ou sur un corail, vous avez un phénomène très différent. C'est que si vous coupez le système en deux, dans la majorité des cas, les deux morceaux survivent. Si vous coupez un corail en deux, vous avez deux coraux vivants qui vont reprendre leur croissance. S'il y a un bout qui est trop petit, il a des chances de mourir, mais en moyenne, vous le coupez en deux à peu près proprement, vous obtenez deux coraux vivants. Et bien sur Internet, si vous coupez Internet en deux, vous obtenez deux moitiés de réseau qui sont deux Internets qui s'ignorent assez magnifiquement et qui fonctionnent tous les deux. C'est-à-dire que tout internaute qui se trouve sur une des moitiés du réseau voit tous les sites web qui sont sur la même moitié du réseau que lui. C'est bien la définition d'un Internet qui fonctionne. Alors évidemment, il ne voit pas les sites web qui sont sur l'autre Internet. Mais ça fonctionne assez bien. En fait, ça vient du fait qu'Internet est une agrégation de réseaux dont chacun est suffisant. Chacun des réseaux sur Internet est autonome. C'est-à-dire que si on coupe FDN du reste d'Internet, les abonnés de FDN voient toujours les sites web hébergés par FDN. On est autosuffisant, on peut continuer à s'échanger des mails entre nous. Si vous voulez, vous pouvez jouer à ça dans votre piole pour les gens qui font un peu d'informatique. Vous prenez 5-6 ordinateurs, vous leur donnez des adresses IP, n'importe lesquelles, pour le coup, et vous les faites communiquer entre eux. Et ils vont pouvoir faire ce qu'ils veulent. Vous pouvez jouer à Doom ou vous envoyer du mail, ça marche. Ah ben non, vous n'avez pas ce qui est sur l'autre Internet, sur le grand Internet, là, l'autre où vous n'êtes pas, vous n'y avez pas accès. Mais le réseau fonctionne. Et donc il faut bien comprendre qu'Internet n'est que l'agrégation de tous ces réseaux. Comment ça fonctionne? En fait, la principale difficulté, c'est qu'il faut qu'il n'y ait pas deux fois la même adresse. C'est très facile à comprendre. C'est pareil dans le téléphone. Si vous donnez le même numéro de téléphone à deux abonnés, comment ça peut marcher? C'est-à-dire que je décroche mon machin à cadran, la grille en bakélite, je tourne le cadran, je compose le numéro en question, ça sonne chez qui? Chez Monsieur Dupont ou chez Monsieur Durand? On est bien d'accord. Et c'est pas spécifique à la technologie Internet. C'est s'il y a deux fois la même adresse sur un réseau, ça marche plus. C'est pareil sur le réseau postal. Si vous êtes deux à avoir la même adresse postale, ça va être la merde. Donc voilà. La seule particularité, si on veut que le réseau Internet fonctionne, c'est qu'il faut qu'il n'y ait pas deux fois la même adresse. Et donc, il faut qu'il y ait un mec chargé, avec son petit calepin, de dire « L'adresse là, je l'ai déjà donnée. L'adresse là, je l'ai déjà donnée. L'adresse là, je l'ai déjà donnée. » La personne qui gère ça, c'est l'IANA, l'Internet Assigned Number Authority, qui note dans un petit calepin électronique les adresses de temps à temps, je les ai données à Orange, les adresses de temps à temps, je les ai données à FDN, les adresses de temps à temps, je les ai données à Google, de manière à ce qu'il n'y ait pas deux fois la même. Et donc, les opérateurs, chacun autonome sur son réseau, sont à peu près 40 000, à une vache près. Les gens qui distribuent les adresses, c'est l'IANA. Et en fait, des petits fragments d'adresses comme ça, disant de temps à temps, c'est monsieur machin qui s'en occupe, il y en a plus de 300 000, on doit être autour de 400 000 d'ailleurs maintenant, à force qu'il y en ait plus de 300 000. Donc voilà, Internet c'est ça. C'est important de l'avoir en tête parce que ça veut dire qu'il y a plein de débats qui sont des faux débats. La question de la gouvernance d'Internet est strictement, exactement la même que la question de la gouvernance du monde. Qu'est-ce qui peut mettre d'accord 40 000 opérateurs ? Je précise, dans les 40 000 opérateurs, il y a sur un pied d'égalité Jitoyen, qui est l'opérateur réseau de FDN, vous voyez, multinationale associative parisienne, et Google, vous voyez, PME de banlieue californienne. Et puis juste à côté, il y a China Telecom, vous voyez, totalement indépendant de l'État où ça habite. Il y a, je ne sais pas comment il s'appelle, l'opérateur national iranien, mais il ne doit pas être beaucoup mieux. Voilà. Tous ces gens-là sont des opérateurs. Et donc, vouloir définir une gouvernance de l'Internet, c'est vouloir définir une autorité qui s'impose à tous ces gens-là. Vous voyez, ça ne va pas être simple. Je précise bien, l'IANA n'est pas une autorité. L'IANA, fondamentalement, ce sont les gens qui gèrent le calepin sur lequel ils notent telle adresse, on l'a donnée à telle personne. Rien ne m'empêche d'utiliser des adresses qui ne m'ont pas été attribuées. Rien. Ça prend 3 minutes de configuration de décider de prendre une IP Google et de l'annoncer sur le réseau FDN. Ça va mal marcher. Ça va foutre une merde noire partout. Mais il n'y a aucune loi en France qui me l'interdise. Il n'y a pas d'autorité au sens traditionnel du terme. Vous voyez, chef à casquette avec des galons, c'est pas ce modèle-là. Tous les opérateurs sont d'accord pour dire que si quelqu'un utilise déjà une adresse, on va éviter de l'utiliser aussi parce que ça fout la merde. C'est du gentleman agreement. C'est juste, voilà, on s'est mis à peu près d'accord. Ces temps-ci, l'IANA déconne pas mal. Et bien pire, le bras législatif qui va avec, l'ICANN, déconne beaucoup. Ils font beaucoup de bêtises, pas tellement dans la gestion des adresses, mais dans la gestion des noms de domaine. Et il faut qu'ils fassent très attention parce qu'ils ont une autorité qui ne s'appuie sur rien, à part un accord tacite, en grande partie non écrit, et dont les engagements sont très faibles. Bien, quelle est la nature de cet objet maintenant qu'on a réussi à le définir un petit peu ? Ce n'est pas un réseau de diffusion. Est-ce que vous avez en tête un exemple de réseau de diffusion ? Histoire qu'on voit de quoi on parle. La télé. Le réseau télé, que ce soit en hertzien, par satellite ou par câble, c'est un réseau de diffusion. Où il y a un point qui émet un message réputé intelligent, qui est diffusé, à n points qui reçoivent le message réputé passif. Vous voyez ? Vous êtes dans le rôle du truc passif, réputé bête. Alors que Coé, il est dans le réputé intelligent. Vous vous démerdez avec ça. Hein. C'est des notions de réseau, j'ai pas dit que c'est vrai. Internet n'est pas un réseau de diffusion. Il n'y a pas un point unique d'émission et des millions de récepteurs passifs. C'est pas comme ça que ça marche. Si ça marchait comme ça, quand on coupe le réseau en deux, on aurait bien une moitié de réseau encore en vie, qui est la moitié où il y a le point d'émission intelligent, et une moitié de réseau mort, qui est le réseau qui n'est composé que de récepteurs passifs. Vous voyez, quand on coupe la France en deux, l'endroit où il y a Paris, c'est celui où il y a encore de la télé. C'est tout par de là. Hein. Ce n'est pas un réseau de communication. Vous avez des exemples en tête de réseaux de communication ? Le téléphone. Le téléphone, c'est un réseau de communication. C'est un réseau où on établit des liaisons d'un point A à un point B pour discuter. Internet, c'est pas ça. Les BBS, ça fonctionnait comme ça. Sur un système de BBS, alors vous n'avez pas connu, à part peut-être le monsieur gris là-bas, les autres trop jeunes. Les BBS, ça fonctionnait comme ça. Le Minitel fonctionnait comme ça. On se connectait à un serveur BBS, où là on pouvait discuter avec les gens qui étaient connectés au même serveur, puis on se déconnectait, puis on allait se connecter à un autre BBS, où on pouvait parler avec les autres gens. Vous voyez, si vous vouliez parler avec vos amis de Google Plus et de Facebook, il fallait deux lignes téléphoniques et deux ordinateurs. C'était quand même le foutoir. Ou alors vous ne leur parliez pas en même temps. Ça, c'est un réseau de communication. Internet n'est pas un réseau de communication. Vous avez déjà repéré que vous arrivez à mener deux conversations simultanées sur Internet. Et si vous faites un tout petit peu attention à ce que vous écrivez, vous ne vous mélangez pas. Internet n'est pas un média au sens classique. Le Monde, c'est un média. TF1, c'est un média. C'est quelqu'un qui reçoit de l'information, qui la met en forme et qui me la présente. C'est pas ce que fait Internet. C'est qui le rédacteur en chef d'Internet ? Ça fonctionne pas comme ça. Internet est un réseau qui permet de faire de la diffusion. C'est-à-dire, qui parmi vous a déjà regardé une émission de télé sur Internet ou une émission de radio ? Voilà. Plein. Qui a déjà utilisé Internet pour discuter ? Voilà. Donc on est d'accord. Ça permet. On peut, par-dessus, sur la couche de service, créer un réseau de diffusion, créer un réseau de communication. Skype ou Jabber, ou IRC, pour les plus cultivés d'entre vous, ce sont des réseaux de communication qui existent au-dessus d'Internet. Ce n'est pas un média, on a vu, lemonde.fr c'est un média, lefigaro.fr c'est un média. En fait, Internet, c'est un liant, c'est juste un réseau de transport passif qui permet tout ça. Ça, j'y reviendrai un petit peu plus loin, mais c'est une phrase clé. Internet change la façon dont les humains communiquent. Je vous laisse réfléchir un tout petit peu dessus, mais j'y reviens après, donc je ne développe pas. En fait, j'y reviens là. Quand on va définir ce que c'est qu'un internaute. En fait, un internaute, c'est une bête un peu bizarre, et dont les journalistes parlent tout le temps sans jamais bien l'expliquer. Voilà le cycle de croissance de l'animal. Le bébé internaute commence par une phase qui est un mélange d'acheteur et de kikoulol. Alors vous voyez, le kikoulol est beaucoup plus fréquent de nos jours. Il a en général entre 12 et 15 ans. Et il est mort de rire parce qu'il a vu un PDF avec des chats qui bougent et qui se cassent la gueule. Lui, je pense que vous le situez assez bien. Les plus brillants sont très jeunes. L'acheteur, c'est d'une génération qui est un peu passée maintenant, on en croise moins de nos jours. C'est le mec qui rentre de chez Darty, chez lui, avec un bidule dans un sac, et qui explique qu'il a acheté Internet. Il est quand même vachement riche, pépère. Alors vous avez pas tellement connu, mais on en a beaucoup croisé en 98, des comme ça. C'est le mec, il a acheté Internet, c'est quand même son Internet qu'il a acheté à Darty, hein, faut pas déconner. Il a acheté un ordinateur avec Internet dedans, vous voyez, c'est un logiciel qui est installé à côté de Word. Et bon, quand il pose une question à son Internet qu'il a acheté, qu'il paye avec des sous, on est prié de lui répondre. Vu que c'est quand même son Internet qu'il a acheté, il a le droit à sa réponse. On a mis un peu de temps à les éduquer. Le modèle d'acheteur qui a survécu, ce sont les gens qui ont, en fait, simplement transposé sur Internet les pratiques quotidiennes les plus communes. Pareil, le public est assez jeune, vous n'avez jamais été contraint de vous déplacer dans une gare pour faire la queue à un guichet pour acheter un billet de train. Vous n'avez pas connu ces temps préhistoriques, moi si. Où il fallait faire 2 km à pied depuis chez mes parents pour aller à la gare paumée à l'autre bout de la ville pour aller acheter un putain de billet de train pour aller en vacances. En fait, quand j'étais jeune, est apparu un outil moderne qui permettait de faire ça sans enlever le cul de sa chaise, qui s'appelait le Minitel. Et c'était un truc de dingue. Et ben, Internet, c'est pareil. Donc il y a beaucoup de gens qui n'ont que cet usage-là, mais c'est un des premiers qui apparaît. Pour la génération de mes parents, la première chose qu'ils ont compris quand ils ont eu un accès Internet à la maison, c'est tiens, alors la punition du samedi après-midi qui consiste à aller acheter des packs de lait chez Carrefour, je peux éviter. Je peux dire au mec de Carrefour de me les amener. Ça, ils ont assez vite compris, de même qu'ils ont assez vite compris que ça permettait de faire chier leur gamin. Mais voilà, ça, ce sont les deux stades initiaux du développement de la bête. Petit 1 qui coulole. Petit 2, transposer dans le monde numérique des démarches qui sont exactement celles du monde physique. C'est le fait d'aller acheter tel ou tel produit en ligne plutôt que dans un magasin, c'est le fait d'aller payer ses impôts sur Internet, c'est les mêmes impôts, hein, vous n'en payez pas plus, pas moins, les mêmes. Juste, la procédure de déclaration est beaucoup moins pénible. Une des évolutions de ce truc-là, c'est quand on passe au stade du lecteur. Le type qui avait l'habitude de lire Le Figaro en papier et qui s'est mis à aller lire lefigaro.fr parce que c'est moins lourd dans sa sacoche, il est encore au stade de l'acheteur. Okay. Il se met simplement à lire en ligne au lieu de lire sur papier. Il est toujours au stade de l'acheteur. Par contre, à un moment, sur un sujet, on ne sait jamais bien lequel, ça dépend des gens. En général, c'est un sujet qui l'intéresse. Il va lire le papier de son journal habituel, et puis c'est pas clair, c'est pas suffisant, c'est pas. Il aimerait bien savoir comment le sujet est traité par les autres. Et sur tel sujet qui l'intéresse, au lieu de lire juste le papier de son canard habituel, il va aller lire les autres. Au lieu de lire juste Le Figaro, il va aller lire Le Monde sur le même sujet, il va aller lire Libé sur le même sujet. Il va aller lire éventuellement d'autres journaux qu'il ne connaît pas, qu'il n'aurait jamais lu dans le vrai monde. Parce que, en fait, jamais les gens vont, enfin, hormis quelques très rares qui font une revue de presse, les gens vont pas chez le marchand de journaux acheter les 8 quotidiens qui existent dans le coin. Avec la presse régionale, la presse nationale, éventuellement le New York Times et le Financial Times pour comparer, et puis le Allgemeine Zeitung s'il parle allemand. Voilà, ça marche pas comme ça. Dans la vraie vie physique, les gens le font pas, hormis deux ou trois chargés de communication qui font des revues de presse. Par contre, dans le monde numérique, ça arrive. C'est-à-dire, qui d'entre vous a déjà lu des articles sortis de trois ou quatre journaux différents en ligne sur un sujet donné ? Quasiment tout le monde. Quasiment tout le monde. C'est une démarche parfaitement normale. Ça, c'est le stade du lecteur. C'est déjà un changement. C'est-à-dire que Homo numericus, une fois qu'il est arrivé là, il fait quelque chose que ne faisait pas son prédécesseur. L'étape suivante, c'est le râleur. Alors lui, vous le trouverez particulièrement dans les commentaires du Figaro, je vous recommande. Si vous avez une demi-journée à perdre, vous prenez n'importe quel article sur n'importe quel sujet de société. Lefigaro.fr, lemonde.fr est un tout petit peu moins pire, mais pas beaucoup. Et vous allez lire le râleur. Et alors vous verrez, il publie, en fait, il donne son avis, généralement étayé. Ça se résume assez bien à pas content avec 4 points d'exclamation. Parce que c'est le clavier qui imprime pas bien sur l'écran, avec un seul on n'arrive pas à se rendre compte. Et il a généralement un avis étayé sur pas content parce que. Il n'y a généralement rien derrière parce que. Ou alors il redit pas content. Lui se caractérise par le fait qu'il n'a pas lu les 27 commentaires précédents, qu'en général il n'a pas lu l'article et que ce dont il parle a généralement peu de rapport avec le contenu de l'article. L'air de rien, il fait une transposition d'un comportement ancien. Moi j'ai connu ça, ma grand-mère elle engueulait le poste de télé. Quand elle n'était pas contente de ce que disait le mec des infos, elle engueulait le poste de télé. Il lui a jamais répondu, hein, je vous rassure. Mais voilà, le râleur, il n'est pas très loin de ce comportement-là. À une différence près, c'est qu'un jour, sur un accident malencontreux, il pourrait lire une des réponses à un de ses commentaires. Alors, après, cette éducation-là se fait, change selon les individus, change selon les lieux, change selon les méthodes, mais elle a toujours lieu. C'est-à-dire que c'est très rare l'homo numericus qui s'arrête au stade râleur. En général, il passe au moins au stade commentateur, qui est une version très améliorée du râleur. Alors le commentateur, dans ses stades finaux de développement, avant de poster un commentaire, il a lu les commentaires précédents. Parce que si ce qu'il voulait exprimer a déjà été exprimé, c'est pas la peine qu'il le rajoute. Sauf éventuellement, disons, plus un ou like. Il est très hype. Mais en général, on s'en abstient. Donc il a lu les commentaires précédents, il en tient compte dans son commentaire. Et en général, il a un tout petit peu d'éducation, c'est-à-dire qu'il reviendra lire le fil de commentaires quelques heures ou quelques jours après pour voir si des réponses ont été portées à son questionnement ou si des contradictions ont été apportées à ses affirmations. C'est déjà un stade relativement évolué de l'internaute, et où on est très 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 loin de ce que faisait Sapiens Sapiens avant de devenir Homo Numericus. Ensuite apparaît l'auteur. Alors l'auteur, c'est une version un peu dégénérée du commentateur, et ça apparaît généralement dans les formes avancées. C'est un commentateur qui a un sujet de prédilection. Il y a un sujet, alors c'est la pêche à la mouche, la recette de la quiche lorraine, ou pour certains la neutralité des réseaux, ou à force d'émettre des commentaires, et à force d'avoir tout lu sur le sujet tout le temps, et d'y réfléchir, et de se poser des questions, et de les poser en public, et de les débattre en public, dans son statut de commentateur, il en vient, sur un article donné qu'il a lu, à poster un commentaire qui est plus long que l'article. C'est-à-dire que, genre, il y a un bleu-bite qui a posté un truc sur la neutralité des réseaux, puis je suis venu avec mes grands sabots, j'ai fait une réponse. Voilà, 887 lignes. Oui, lui, il avait fait un post de 12 lignes, mais du coup, je vais préciser un peu les 2-3 approximations qu'il avait laissées. Et normalement, à ce moment-là, il y a un moment où on se dit, plutôt que de mettre un commentaire chez lui, je vais mettre un billet chez moi. Ça ira plus vite. Puis après, j'irai lui dire en commentaire, Toto, t'as fait plein d'erreurs, tiens, je t'ai fait une liste, là. Et à ce moment-là, il est bien obligé de s'ouvrir un chez lui, où il publie sa prose. Et il devient ce qu'on appelle un auteur. C'est très différent un auteur parce que tout d'un coup, il est bien obligé de lire les commentaires qui sont en dessous, s'il ne veut pas passer pour un gland. L'air de rien, dans la phrase commentateur, il a appris un truc, qui est un truc rare. Il s'exprime en public, par écrit. Il ne peut pas nier les bêtises qu'il a dit. C'est par écrit. Et donc, quand on lui prouve qu'il s'est trompé, alors au début, il dit juste non et puis des gros mots. Mais au bout d'un moment, il apprend qu'effectivement, il s'est trompé. Il va bien falloir qu'il le dise. C'est très bizarre comme approche. Ça n'existe pas dans la vraie vie. Apprendre à débattre publiquement par écrit. C'est très particulier. Une fois qu'il est devenu un auteur, normalement, il sait déjà faire. Alors, il va gérer les râleurs qui viennent juste sous son papier pour dire pas content, puis il va essayer de tamiser un peu le truc. Puis après, il y a une autre phase de développement qui est le moment où il devient animateur, c'est-à-dire qu'il se retrouve à avoir des commentateurs qui lui mettent des commentaires longs comme un roman, et où, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé que sous un billet à vous, il y ait quelqu'un qui mette long comme un roman en réponse et que vous disiez au quelqu'un, écoute, ton commentaire, je l'enlève, j'en fais un billet à côté et puis je te réponds dans les commentaires. Et en fait, quand vous en êtes là, vous êtes animateur d'un réseau parce que vous vous retrouvez à être 3 ou 4 à publier au même endroit des billets qui se répondent ou qui ne se répondent pas et où en fait, à faire en sorte que les gens publient des choses, si possible un tout petit peu coordonnées, en se mettant d'accord pour pas traiter 3 fois le même sujet le même jour, vous n'êtes pas très loin d'avoir lancé un organe de presse quand même. Alors, tous les internautes ne vont pas jusque-là, mais en général, ils arrivent à peu près tous à dépasser le stade râleur et à devenir une variété de commentateurs plus ou moins éclairés. Si je reviens à ce que je disais 2 diapos plus haut, Internet change la façon dont les humains échangent entre eux. Change la façon dont les humains communiquent. Internet change la société. Ah oui, j'ai posé comme définition, et vous n'aviez pas l'air trop choqué, que la société est la somme des interactions entre individus. Internet change la façon dont les individus interagissent. Change totalement la façon dont les individus interagissent. Donc Internet change totalement la société. De manière beaucoup plus certaine que l'iPhone ou le moteur à pétrole. Okay ? Ça change la façon dont les êtres humains communiquent entre eux. C'est une des racines de l'espèce. Si vous cherchez les différences biologiques entre vous et la première variété de... On doit être des sapiens sapiens, nous, il me semble. Hein. Biologiquement, on s'entend. La différence biologique entre vous et les premiers sapiens sapiens d'il y a 15 ou 20 000 ans, c'est je crois que c'est 40 000 ou 60 000, hein, l'apparition de l'espèce. Donc si vous prenez ceux d'il y a 15 ou 20 000 ans, voilà, on est plus du tout, on est très éloigné de Cro-Magnon. Hein. Biologiquement, ils sont strictement identiques à vous. Vous n'arriverez pas à vous parler, vous n'arriverez pas à vous comprendre, vous êtes à 1000 lieues l'un de l'autre. Vous êtes incapable d'aller chasser le manger tout nu en courant dans la forêt. Pourtant, vous n'avez pas de problème à vous nourrir. La seule façon que vous avez eu d'évoluer, c'est d'évoluer par le changement de la société. C'est une des particularités de l'espèce humaine. Quand l'huître veut s'adapter à un changement de son milieu, l'évolution se fait de manière génétique. C'est-à-dire que la température de l'eau en moyenne a monté de 1 ou 2 degrés. Certaines huîtres vont moins facilement se développer, vont plus réussir à accéder à la nourriture, vont moins bien se reproduire, etc., etc., etc. Et au bout de 20, 30 générations d'huîtres, seules les huîtres qui ont un patrimoine génétique convenablement compatible avec cette nouvelle température de l'eau auront survécu. Et si on revenait à l'ancienne température de l'eau, on recommencerait à en exterminer les deux tiers. Jusqu'à ce que seuls ceux qui ont à peu près réussi à évoluer dans le bon sens, en moyenne, finissent par vivre suffisamment longtemps pour se reproduire, pour accéder à la nourriture, etc. etc. On ne fonctionne pas comme ça. Les sociétés humaines, en fait, l'humain évolue autrement que génétiquement. Ça se voit sur plein de détails. Il y a des êtres humains dans tous les climats de la planète. Des tropiques jusqu'au pôle, il y a des êtres humains partout. Et ils ne sont pas biologiquement différents. Ce sont tous des homo sapiens sapiens. On s'adapte à notre environnement autrement que biologiquement. Et en fait, on s'adapte à notre environnement essentiellement en utilisant le fonctionnement social de l'être humain comme moteur d'adaptation. Dire qu'on change la façon dont les humains communiquent, ça veut dire qu'on change la société. C'est quasiment un changement d'espèce chez l'humain. Toucher aux racines de ce qui fait société chez l'être humain, c'est toucher à quelque chose d'extrêmement profond. Bien. Alors, quand je veux parler de neutralité des réseaux, il y a deux variétés de publics. Il y a les politiques. Et alors les politiques, c'est épouvantablement compliqué parce que ce sont des gens très savants. Qui ont lu énormément de documents. Le pire, c'est quand on a leur conseiller, parce que le ministre, en général, il ne sait pas, lui. Si vous essayez de lire ce qu'a produit la Commission européenne ou l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes, dite ARCEP, sur la question de la neutralité des réseaux, vous allez vous rendre compte que ce qu'ils cherchent à faire, c'est des questions d'économie extrêmement compliquées sur la répartition de la valeur, les marchés bifaces. Vous voyez tous ce que c'est qu'un marché biface et les conséquences que ça a. En fait, c'est exactement comme s'ils essayaient de comprendre l'impact qu'a eu sur la société, Internet sur la société et les conséquences qu'il faut en tirer par une analyse économétrique. Il y a un précédent à ça, des changements qui ont eu des impacts très similaires à Internet, il y a l'imprimerie. Au XVe siècle, l'apparition de l'imprimerie a des impacts similaires à l'apparition d'Internet aujourd'hui. Et en fait, si vous essayez de comprendre ce que l'imprimerie change dans la société du XVIe siècle en faisant une analyse économétrique de l'industrie papetière de l'époque, vous êtes à peu près dans la même situation que ce qu'essayent de faire nos ministres et nos régulateurs et la Commission européenne. Vous n'avez aucune chance. Ça ne veut pas dire que le sujet n'était pas d'importance à l'époque. Les questions autour de l'industrie papetière au XVIe siècle étaient tellement graves et tellement sérieuses qu'elles ont modifié la langue française. Vous connaissez tous l'expression « se battre comme des chiffonniers ». Vous l'avez entendu, vous savez ce que ça veut dire ? Ce que ça veut dire, vous savez. Vous savez d'où ça vient ? Pourquoi ils se battaient les chiffonniers ? C'était quoi un chiffonnier déjà ? Qui parmi vous a déjà croisé un chiffonnier ? Ouais. Pourquoi ils se battaient ? Pour récupérer les chiffons. Et pourquoi récupérer les chiffons, c'était si critique ? Eh bien, en fait, parce que le développement de l'imprimerie et de l'écrit faisait que le papier était une ressource utile, c'était la seule chose qui avait de la valeur. Ce qui fait le prix du livre, c'est le prix de la tonne de papier. Ça, ça n'a pas changé depuis. Et donc, récupérer le chiffon pour pouvoir fabriquer le papier, c'était une matière première de grande valeur. De très grande valeur. Et on s'est retrouvé avec des chiffonniers qui se battaient suffisamment fort, comme se battent aujourd'hui Apple et Samsung, si vous voulez. C'est de manière très voisine. Hein. Ils ont été jusqu'à obtenir que l'on fasse des lois pour garantir à tel entrepreneur local l'exclusivité de la collecte des chiffons sur telle ville. On parle de guerre économique, de lobbying auprès des pouvoirs publics de l'époque, etc., qui sont en tout point similaires à ce que font Apple et Samsung quand ils se battent à coups de brevets aujourd'hui. Et il faut repérer, Apple et Samsung, ils sont très soft. Ils font des brevets à quelques milliards de, enfin, des procès à quelques milliards de dollars. C'est très soft. À l'époque, il y avait vraiment des bastons. Il y en avait suffisamment pour que soit rentrée dans la langue française l'expression « se battre comme des chiffonniers » et qu'elle soit restée 4 siècles plus tard. Ok ? Il y a un risque certain que dans 2 siècles, on dise « se battre comme des crétins de pro-brevets ». Ce n'est pas exclu. Cependant, si pour essayer de comprendre l'impact qu'a eu l'imprimerie sur l'évolution des sociétés occidentales entre le XVe et le XVIIIe siècle, vous ne vous appuyez que sur une analyse économétrique de l'industrie papetière, vous n'avez aucune chance. Ce n'est pas le bon outil. Le bon outil, c'est d'essayer de comprendre l'impact qu'a eu l'événement sur la société pour comprendre quelles sont les lois dont on a besoin. En fait, pour comprendre le problème de la neutralité du net, il faut comprendre 2 ou 3 morceaux de fonctionnement de la société Internet et de la société du numérique. Poser le problème non pas en termes d'économie, en termes de répartition de la valeur entre Orange et Google, de répartition... Tout ça sont des questions beaucoup trop compliquées et qui ne sont que des questions finalement annexes et secondes une fois qu'on a compris les quelques questions premières. Alors, je vous donne quelques définitions du problème. Monsieur le duc de Facebook a décidé que je n'avais pas le droit de poster de photos nues. D'accord. Pourquoi ? Monsieur le baron d'Apple a décidé qu'on n'avait pas le droit d'utiliser un téléphone de sa marque pour regarder du contenu pornographique. Pourquoi ? D'où ces gens-là ont-ils droit de haute et basse justice sur leur terre ? C'est mon téléphone qui est dans ma poche, dont je me sers, qui est au final un ordinateur, hein, dont je me sers pour exécuter l'application que je veux. Enfin, là-dessus, j'installe ce que je veux comme programme et je me branle de l'avis du fabricant. Hein. D'où ces gens tirent-ils un droit de justice sur leur terre ? Ils sont seigneurs de droit divin parce que c'est pas clair. Il se trouve que j'ai pas de page Facebook, je suis pas con, mais... si j'en crée une... Il y a une page du fan club des cravates de Benjamin Bayard, mais c'est pas moi qui l'ai créée. Et tu noteras que je raconte pas ma vie. Si je crée mon compte Facebook, c'est ma page, c'est moi qui parle. Tout ce qui est écrit là est réputé être dit par moi. Monsieur Facebook, il est quoi ? Il est un réseau de diffusion de ma parole. D'où il est autorisé à filtrer ce que je dis ? Après, qu'il exige ou que la loi exige que quand je pose un contenu dont le caractère pourrait être pornographique, je sois contraint de marquer ce contenu comme réservé aux utilisateurs adultes. Pourquoi pas ? Ce serait une contrainte légale. Mais diffuser des photos nues, c'est autorisé en France et c'est même pas forcément pornographique. Et je vous assure, on a le droit de montrer les gens nus sans que ce soit porno. On n'a pas encore en France voilé les statues grecques. On a toujours le droit, c'est autorisé. Et le mannequin piece n'a pas mis de slip. c'est toujours légal en France. Je sais que ça l'est de moins en moins, mais ça l'est encore. Donc ça, c'est un vrai problème. Et c'est une des bases du débat sur la neutralité. Une autre des bases, c'est la question du racket. Alors celle-là, elle est très bien expliquée, elle était très bien expliquée par un de mes anciens patrons, je ne dirais pas lequel, mais un des grands opérateurs, qui avait cette caractéristique qu'il investissait des sommes colossales pour fabriquer du réseau, pour poser des fibres, faire des trous dans les trottoirs, acheter des routeurs, mais des sommes colossales, en centaines de millions d'euros, avec des centaines de salariés mobilisés sur le sujet, avec des grosses sommes, quoi, vraiment des gros machins. Il se faisait chier à gérer toute la facturation, l'envoi des box chez les abonnés, récupérer les identifiants, enfin, tout le bordel de service client, parce qu'évidemment, c'est en panne tout le temps, ces merdiers-là. Un foutoir indescriptible, une quantité de travail colossale, pour être payé approximativement 30 euros par mois. Quand il a compris le modèle économique de Mythique, il a fait un arrêt cardiaque, pépère. Ah oui, Mythique, vous connaissez tous, site de rencontre. Alors, qu'est-ce que vous vend Mythique ? Les profils des autres gens. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez apporté les données qui créent la valeur du truc. D'accord ? Il vous vend du contenu qu'il n'a pas produit. On peut à la rigueur comprendre le modèle de telle ou telle boîte de prod, de TF1 vidéo, etc. Où ils vous vendent du contenu vidéo qu'ils ont produit. Sur Mythique, le contenu, c'est vous qui l'avez produit. C'est magique. Donc en fait, monsieur Mythique, il vous vend. C'est combien l'abonnement payant à ce truc-là ? C'est 30 euros par mois, il me semble. Donc il vous vend 30 euros un contenu qu'il n'a même pas produit. Par rapport au mec qui s'est fait chier à faire des trous dans les trottoirs pour vous vendre un abonnement à 30 euros, je vous jure, il l'a mauvaise. Hein. Et donc, ils sont assez vite arrivés à la conclusion que voilà, c'est trop injuste. Hein, c'était sa phase Calimero. Et donc, voilà, il est arrivé à la conclusion que il en veut une part. Lui, il est opérateur de réseau. Il peut filtrer. Il peut empêcher ses millions d'abonnés d'accéder à tel ou tel site web. Et il veut une part. Il veut 5% du chiffre d'affaires. Il y a des endroits où ça se pratique. En général, ils appellent ça l'impôt révolutionnaire. Hein, on vous demande 5% en échange du fait que vous serez en sécurité. En droit, ça reste du racket, hein, à peu près partout. Les opérateurs aimeraient bien que le ministère de l'économie numérique définisse ça comme étant de la répartition de la valeur. Ça reste du racket. En fait, un des mots-clés là-dedans, c'est le mot-clé transparence. D'après la Commission européenne, ce serait la bonne solution. Alors, eux, ce qu'ils appellent transparence, c'est la concurrence libre et non faussée. C'est le fait que du moment qu'on vous écrit bien la quantité de mercure qu'il y a dans le yaourt, tout va bien. Vous voyez ? En fait, le seul problème qu'ils ont... d'ailleurs, je suis assez d'accord avec eux, c'était le seul problème sérieux. Si au lieu de bœuf, il y avait écrit cheval sur les lasagnes, ça allait. Je suis d'accord avec eux, il y aurait eu écrit lasagne, tout allait bien. Mais donc, du coup, le jour où au lieu d'y mettre de la viande, vous y mettez autre chose, du moment que c'est écrit quelle autre chose il y a dedans, tout va bien. En fait, dans le lait à la mélamine, c'est pas la mélamine qui pose problème, c'est le fait que ce soit pas écrit sur l'étiquette. Vous vous souvenez de cette affaire ? Non ? Ah, c'est en Chine qu'il y avait eu ça. Alors, le classique dans l'industrie laitière, c'est de couper le lait avec de l'eau. Hein, ça, c'est très classique. Vous prenez un litre de lait, vous y rajoutez 20 centilitres d'eau, vous avez 1,20 litre de lait. Hop. Marche vachement bien, personne ne fera la différence. Et quand vraiment ça se voyait trop, parce que quand on diluant beaucoup, ça se voit que c'est un peu transparent, ils mettaient de la mélamine. Vous savez, la mélamine, c'est ça. Ça, là. La poudre blanche qui sert à fabriquer ça, quand on la mélange dans l'eau, ça fait un truc blanc, on dirait du lait. Vous le mélangez avec un peu de lait, ça passe très bien. Ça avait fait tout un scandale sanitaire en Chine. Et dans le monde entier, parce qu'il y a plein de produits exportés de Chine à base de lait qui étaient faits comme ça. Donc on en retrouvait dans des bonbons, on en retrouvait dans des gâteaux, on en retrouvait dans de la nourriture pour enfants. Ça avait fait un scandale magnifique, il y a quoi, 2-3 ans. Si on en croit le fonctionnement de la Commission européenne, le seul problème, c'est que ce n'était pas écrit sur l'étiquette que c'était 30% lait, 70% mélamine. Du moment qu'on l'aurait écrit sur l'étiquette, tout allait bien. Pour la Commission européenne, il suffit que le marché soit transparent, de manière à ce que le consommateur soit convenablement informé pour que la main invisible du dieu marché permette, grâce à son encensoir concurrence libre et non faussée, de réguler le problème et que du coup, on garantisse les libertés fondamentales sur Internet, etc., etc. Ça ne marche pas. En fait, en matière de transparence, il y a besoin, vu le rôle que joue Internet dans la société, que vous puissiez avoir confiance. Aucun d'entre vous ne doute de ce que je prononce bien tous les mots que vous entendez. Vous êtes certain que malgré l'épaisseur de dispositifs électroniques qui nous séparent, à savoir un micro, un ampli, plein de bidules électriques et puis des haut-parleurs, ce que je dis, vous l'entendez. Et vous êtes certain de ça. En fait, vous êtes certain de ça parce que vous me voyez, parce que vous arrivez à corréler l'image et le son, vous savez que je ne suis pas un hologramme, etc., etc. Vous avez confiance, en fait, dans l'air qui nous sépare pour être suffisamment transparent, pour ne pas déformer mon image et pour ne pas déformer mes propos. Vous savez que l'air qui sert de support entre ce que je dis et ce que vous entendez n'ajoute pas de mots, n'en retire pas, ne censure pas un certain nombre de phrases, et que si je dis « bit » au milieu d'une phrase, vous n'entendrez pas « bip », mais bien « bit ». On est bien d'accord. Sinon, vous allez entendre parler de mégabits par seconde, ça va être le foutoir. Il y a nécessairement besoin que le canal de communication soit aussi transparent que ça. Vous devez avoir autant confiance dans le canal de communication électronique que vous avez confiance dans l'air qui nous sépare pour communiquer. Sinon, forcément, le système sera vicié. Internet prend une telle part dans nos communications que cette garantie de transparence et de confiance totale dans le canal est quelque chose de fondamental. Et donc, en fait, la bonne question, la bonne façon de se poser la question sur ce que c'est que la neutralité du net et comment on va protéger ça, c'est de traiter ces trois questions. C'est de traiter, est-ce que tel ou tel intermédiaire technique, que ce soit le fournisseur de mon téléphone, que ce soit l'hébergeur sur lequel je m'appuie pour publier un certain nombre d'informations, est-ce que ces gens-là ont droit de justice ou pas ? C'est de comprendre, est-ce qu'il est normal que tel ou tel intermédiaire technique ait un pouvoir de nuisance tel qu'il puisse racketter les autres. Et donc, en fait, lever un impôt privé quand M. Free ou M. Orange exige que Google paye pour que les abonnés puissent accéder au contenu, je ne sais pas si ce point de raisonnement très, très important vous a échappé ou pas. Vous avez suivi, il y a eu une petite guerre entre Free et YouTube, Google récemment. Quel est le raisonnement de Free ? Monsieur Free, en la personne de son directeur technique, dit « Je ne transporterai pas ta merde à Google, sauf si tu me donnes du fric. » Et en cela, il se trompe. Google n'a rien émis. Vous voyez, quand Internet se réveille le matin, il s'étire, il prend son café, tout ça, hop, il s'attable. Et puis Monsieur YouTube, une fois qu'il est sorti du lit, réveillé, il se met devant son accès à Internet, il n'émet rien. Il n'émet pas de données. Il faut attendre que l'internaute, en général dans sa phase qui coulole, lui aussi se réveille et aille dire « Je veux voir une vidéo de chat à la con qui se casse la gueule. » et à ce moment seulement, Monsieur YouTube se met à émettre des données. Or, il se trouve que l'internaute, dans sa phase qui coulole, il est client chez Free. Vous voyez ? C'est en fait, c'est pas YouTube qui doit payer Free pour pouvoir déverser sous son bordel. C'est Free qui devrait payer YouTube à cause de toute la surcharge sur ses serveurs qu'entraînent les freenotes. Voyez-vous ? Parce que si on éteignait tous ces putains de FAI, Google n'aurait pas besoin de mettre autant des serveurs. Vous voyez, avec un, ils en auraient déjà trop. Le raisonnement économique qui est tenu par Free, qui est de dire « Tu transporteras pas ta merde sur mon réseau si tu me payes pas », bah oui, d'accord. Mais c'est pas la merde de YouTube, c'est celle des abonnés. Maintenant, si votre fournisseur d'accès vient vous dire en disant « Je transporterai pas ton trafic si tu me payes pas », normalement, vous répondrez « Mais je te paye déjà pour ça, connard. » Voyez ? C'est important de comprendre que le raisonnement est construit à l'envers. On se trompe sur la propriété des données. Bien, je vous laisse deviner pourquoi il y a cette équation-là écrite en haut. Et donc en fait, c'est un petit calcul compliqué, mais les plus brillants d'entre vous devraient réussir à le faire de tête. En fait, si on veut résoudre les questions de neutralité du net, ça commence par un truc assez simple, c'est qu'il y a besoin en France d'un texte de loi qui protège la liberté d'expression. C'est un truc très simple, ça n'existe pas. Alors je peux vous relire, parce que c'est quand même intéressant, l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme. Hein. « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. » Bien. Si je filtre un site web, mettons un truc crypto-communiste d'anarcho-gauchiste ultra, genre parti-socialiste.fr, oui. Un truc dur, hein. Je décide, moi, en tant que fournisseur d'accès à Internet, de le filtrer. Qu'est-ce qui va m'arriver ? Qui peut porter plainte ? Sur quelle base ? Alors, je peux vous donner des bouts de réponse hein, en termes de droit. Si je décide de filtrer Amazon, ils vont porter plainte aux civils parce qu'il y a un préjudice économique. Il y a perte de chiffre d'affaires et donc je vais perdre, c'est évident. Je vais être obligé de compenser la perte de chiffre d'affaires, ça va me coûter un bras plus une amende. Enfin, voilà. Si je décide de filtrer, ce qui se trouve, en fait, nous on héberge des adresses mail pour ceux de nos adhérents qui ne sont pas capables de l'installer eux-mêmes, le moins possible. Si je décide de filtrer cet audio concurrent qui est Gmail, alors que je laisse fonctionner mail.fdn.fr, Google peut porter plainte sur la base d'entrave à la concurrence libre et non faussée parce que je permets à mes abonnés d'accéder à mon service et pas au leur, et donc par ce biais je déforme la concurrence. Vous voyez, un petit peu comme si Orange favorisait Dailymotion contre YouTube, vous voyez, un peu. Sans doute en lien avec le fait que Orange est actionnaire de Dailymotion à 100%. Sans doute. On pourrait imaginer que YouTube aille devant un tribunal et dise voilà, déformation de la concurrence, il y a 8 millions d'internautes en France qui ne peuvent pas accéder librement à mes services et donc Orange favorise la filiale, etc. Normalement, en 20 à 25 ans de procédure, il devrait obtenir une décision peu contraignante. Mais si je filtre parti-socialiste.fr, ils vont faire quoi ? Ils vont me faire un procès sur la perte de chiffre d'affaires ? Ça va pas être simple, ils sont pas marchands. On pourrait dire qu'ils sont marchands de politique, qui vendent des cartes d'adhésion. C'est pas clair. Et en fait, ils vont être très embêtés. Il n'y a pas de texte qui protège la liberté d'expression. Il y a un texte qu'il a défini, et qui dit que c'est un droit de l'homme. Mais, saccager la liberté d'expression de quelqu'un, n'est pas un délit. Monsieur Facebook peut censurer ce qu'il veut sur vos pages, il ne lui arrivera rien en droit français. Rien. Il n'est coupable d'aucun délit. Au pire, s'il supprime une de vos photos sans vous la restituer, il est coupable de vol. Voyez ? Mais s'il vous empêche d'annoncer une information, il n'est pas coupable de grand-chose. Comme il se trouve qu'en plus vous avez signé un contrat disant que tout ce que vous mettiez en ligne lui appartient, il n'y aura même pas vol. Donc voilà, il y a besoin en droit français d'un texte qui protège la liberté d'expression. Et une fois que ce texte est posé, alors la liberté d'expression, il y a déjà une jurisprudence du Conseil constitutionnel, constante et fournie, qui raccroche en un seul droit la liberté d'expression et la liberté d'accès à l'information, qui sont en fait les deux facettes de la même liberté. C'est-à-dire si j'ai le droit de m'exprimer, mais que vous n'avez pas le droit de m'écouter, on n'est pas rendu. Et en fait, une fois qu'on a défini ça, on a torpillé le problème de féodalité. Ben oui. De quel droit M. Facebook décide de ce que j'ai le droit de publier ? D'aucun. Et c'est un délit et il ne peut pas en décider. Une fois qu'on a ce texte qui protège la liberté d'expression et la liberté d'accès à l'information, la question du racket est réglée. Est-ce que M. Free peut décider de m'empêcher d'accéder à tel ou tel site web ? Non. Il me le doit, il me l'a vendu. C'est ma liberté d'accéder à l'information. Et en fait, une fois qu'on a traité le problème de société, et qui est un problème tout à fait moderne, parce que au siècle dernier, voyez-vous, alors moi quand j'étais petit, ça voulait dire au 19e, mais maintenant on a incrémenté, au siècle dernier, pour accéder à la liberté d'expression, il fallait être journaliste. Et pour protéger la liberté d'expression, il suffisait de garantir la liberté de la presse, et de garantir, par la loi, que les citoyens puissent accéder à la presse. En tant que lecteur. Et tout ça, ce sont des libertés qui sont garanties. C'est la loi de 1881 sur la liberté de la presse. Ça marchait très bien au 19e et au début du 20e. Il suffit de garantir que les journalistes aient le droit de parler, et il suffit de garantir que les lecteurs aient le droit d'acheter le journal, et tout va bien. On a garanti tout ce qu'on pouvait de liberté d'expression. Et pour le coup, ça, c'est garanti par la loi. C'est-à-dire, si j'empêche la diffusion d'un journal, il va m'arriver des bricoles. Si le réseau des kiosquiers décide qu'il ne veut plus distribuer Libé, il va lui arriver des bricoles. Un kiosquier qui décide de ne pas vendre tel journal, il prend un vrai risque vis-à-vis de la loi. Quelqu'un qui décide qu'il va empêcher un journaliste de publier une information, il va lui arriver des bricoles. Sauf s'il est ministre, ça c'est pas pareil. Mais... Et même s'il est ministre, il y a des lois pour que peut-être au bout de 20 ans, il lui arrive des bricoles. Par contre, quelqu'un qui cherche à faire taire un simple citoyen, il ne va rien lui arriver du tout. Or, il se trouve qu'Internet a déplacé le curseur. La liberté d'expression n'est plus un domaine réservé pour les journalistes, c'est le domaine de Monsieur Tout-le-Monde. Je vous ai menti. Alors, je sais, c'est passé inaperçu, mais vous auriez dû hurler. Je vous ai dit qu'Internet est en train de changer la société. Vous m'avez tous entendu dire ça. Vous n'avez pas tiqué. Non ? Vous voyez, il y a une petite société, elle était toute belle, là, elle se promenait, sympathique, puis il y a Internet, du dehors, qui l'a déformée. Il est sorti d'où ? Deus ex machina, vous voyez ? C'est un truc qui est venu du monde du dehors et qui a changé la société. Alors moi, je veux bien accepter cette hypothèse, qu'Internet est un truc envoyé par Dieu pour changer le monde des sociétés humaines. Juste, ça va foutre le bordel. Du coup, c'est quoi, Internet ? Parce que ça, c'est une formulation extrêmement dangereuse qui donne l'impression qu'Internet est un procédé hors société qui intervient pour la modifier de manière extrêmement artificielle. C'est pas vrai. Internet n'est pas une intervention extérieure. Cette formulation, fondamentalement, est fausse. On pourrait dire qu'Internet fait évoluer la société, mais c'est le même problème. Tu supposes qu'il y a la société d'un côté, qui dormait tranquillement, et puis qu'il y a Internet qui est venu du dehors, qui a toqué à la porte, qui a fait « Oh, la société est debout !» Ça marche pas. C'est où dehors ? Ouais, c'est exactement ça. Internet est l'outil dont la société s'est dotée pour changer. C'est ça, la bonne formulation. Ne croyez pas qu'Internet soit un phénomène externe qu'il suffise de rejeter pour qu'on reste dans l'ancien temps où c'était tellement mieux. Les sociétés humaines changent et Internet est l'outil dont elles se sont dotées parce qu'elles en avaient besoin dans leur changement. Il y a un certain nombre de problèmes dans l'organisation des sociétés humaines qui ne pouvaient plus se résoudre, qui devenaient bloquants, et Internet est le pied de biche dont on s'est armé pour faire sauter ces verrous. L'exemple, le point de départ, vraiment le cas d'école, c'est un problème de bibliothèque universitaire. Donc, ici, vous connaissez ça. Moi, quand j'étais étudiant au siècle dernier, je m'intéressais à un nombre de domaines très très précis dans le génie électrique, qui était tout ce qui touchait à l'informatique. Vous voyez ? Et en fait, la quantité de publications scientifiques dans ce qui touchait à l'informatique, c'était, bon an mal an, une trentaine ou une quarantaine de revues scientifiques, si on compte les publications de Lee 3e, les publications de Springer Verlag, quelques publications françaises, etc. Juste, je parle de celles qui sont dans des langues qui me sont accessibles, donc en français ou en anglais, éventuellement en espagnol. Ça représentait en tout une vingtaine ou une trentaine de revues. Très cher. Et il fallait que l'école, pour qu'on puisse travailler, soit abonnée à toutes ces revues, juste pour le segment informatique. Et il se trouve qu'il y avait d'autres filières dans l'école qui couvraient tout le génie électrique, donc avec l'automatique, avec de la physique, des maths, de l'électronique, etc., etc. Et en fait, la totalité, si vous regardez, ça représente des dizaines, des centaines de revues scientifiques, dont il faut recevoir au moins un exemplaire, tous les mois ou tous les trois mois, selon que c'est un mensuel ou un trimestriel, si on veut ne serait-ce qu'avoir les 15 dernières années. Ce qui veut dire que vous n'avez aucun des articles fondateurs. Les articles fondateurs en matière d'informatique, il n'y en a qu'en 40 ans. Si vous voulez avoir un exemplaire de l'article fondateur, il faut que vous ayez l'intégralité des revues depuis 40 ans. Ok ? Vous voyez le volume de papier que ça fait ? Vous y rajoutez les sciences sociales, les sciences humaines. Vous prenez un mec qui est un tout petit peu moins analphabète que moi et qui donc parle plus de deux langues. C'est impossible à résoudre comme problème. Et on ne parle là que du domaine scientifique de la recherche. On n'a pas les domaines connexes qui sont moins poussés que la recherche. C'est pour ça qu'Internet vient du monde universitaire. Parce que déjà à la fin des années 60, il devenait compliqué de diffuser ne serait-ce que le produit mondial de la recherche dans la totalité des universités. Ça se mettait à coûter très cher. Je ne vous parle pas du fait que deux étudiants veuillent emprunter le même article. Vous voyez ? En fait, en général, quand une classe travaille sur un sujet, vous avez toute la promo qui veut emprunter le même article. Quand vous avez du bol, c'est une promo où il y a 40 gamins. Vous voyez la conséquence, il faut être abonné à toutes les revues en 40 exemplaires. Vous voyez ? Ça fait un peu du papier quand même. C'est vraiment ce genre de problème qui bloquait l'évolution de la société et où la société s'est dotée d'un outil pour faire sauter le verrou. Exactement comme au XVe siècle, en 1435 ou 45, je ne sais plus, quand est apparue l'imprimerie, il ne faut pas croire que l'imprimerie est apparue de l'extérieur et à imposer son changement à la société pour la forcer à sortir du Moyen-Âge. C'est plus compliqué que ça. C'est parce qu'on s'était remis à produire de la connaissance scientifique qu'on n'arrivait plus à la diffuser avec la méthode traditionnelle qui consiste à utiliser des moines copistes, qu'il a bien fallu se doter de moyens permettant à l'information de circuler, ce qui a permis à l'évolution en cours de la société de se produire. Un truc qu'on a appelé la Renaissance par la suite. Il ne faut pas croire que ce soit un phénomène externe. Internet est l'outil dont la société s'est dotée pour pouvoir évoluer. Donc tous les gens qui pensent que « Oh, bah il suffit de bloquer Internet et puis comme ça on reviendra à un monde fort raisonnable où M. Vivendi gagnait de l'argent », se trompent. Ça n'a pas de sens. Enfin, post-conclusion, il y a un bout que j'ai gardé exprès en cadeau bonus, vu que je venais au CRANS. Alors, ceux d'entre vous qui ont eu l'occasion de voir une conférence que j'ai donnée il y a à peu près un an à Toulouse, au Jerez, savent que je considère que Renater est le pire des FAI en termes de neutralité, ce qui n'aura échappé à personne. Ça filtre à peu près tout n'importe comment, sans la moindre espèce de respect de ses obligations légales. C'est-à-dire rien qu'à l'heure actuelle, Renater qui essaye de vous imposer dans vos pioles, c'est-à-dire dans votre domicile privé, des règles de gestion qui sont les siennes et qui sont certes parfaitement valables tant qu'ils gèrent les salles de TP de l'université, mais qui n'ont bien évidemment plus aucune valeur une fois que vous êtes chez vous. Je serais très surpris que légalement ce soit valable. L'air de rien, le respect de la neutralité du réseau de transport, ça existe déjà en droit. C'est défini de manière assez floue, de manière assez approximative, personne ne sait faire un procès en s'appuyant dessus, mais pour le moment, Renater survit dans ce contexte-là parce qu'aucun étudiant n'a décidé de porter plainte avec les épaules suffisamment larges pour le faire. Ça vient de, en gros, deux phénomènes. Le premier, qui est la charte Rhénaterre, qui est appliquée à des endroits où elle ne devrait pas, puisque ces gens-là n'ont pas autorité sur votre domicile. Or, votre piole en résidence universitaire est votre domicile, légalement. Ensuite, ça vient du fait que les admins des universités sont beaucoup trop frileux, parce que le réseau Rhénaterre, c'est-à-dire le réseau qui est entre les universités, lui, il est d'une neutralité à toute épreuve. Il n'y a rien de filtré dessus. Ce sont les admins qui, pour vous forcer à respecter la charte Rhénaterre, ont décidé de tout filtrer. C'est pas le réseau Rhénaterre qui filtre. Ce sont les admins dans les facs et dans les écoles qui filtrent parce que c'est la façon qu'ils ont eu, eux, de comprendre la charte Rhénaterre et de se couvrir le cul. Il se trouve que tout ça est fait en parfaite contradiction avec la loi sur la confiance en l'économie numérique et les directives européennes qu'elle transpose. Le principe fondamental de ces directives européennes, c'est en gros, pour faire simple, ou bien tu interviens, c'est-à-dire que tu modères les commentaires d'un forum, tu filtres le réseau, ou bien tu interviens, et dans ce cas-là, tu es éditeur et tu es responsable. Ou bien tu n'interviens pas, et dans ce cas-là, tu es intermédiaire technique, tu es opérateur, tu es hébergeur, et c'est l'abonné qui est responsable. Ça veut dire qu'à l'heure actuelle, si malgré le filtrage de Rhénaterre, vous parvenez à accéder à des contenus illégaux sur Internet, c'est-à-dire typiquement du porno si vous avez 17 ans et demi quand vous rentrez en école supérieure, ou de la musique si vous avez n'importe quel âge, de la musique payante, hein, s'entend la musique sérieuse qui est libre de droit, par exemple toutes celles qui s'est élevée dans le domaine public, vous avez le droit. Si malgré Rhénaterre vous parvenez à ça, c'est de la faute de Rhénaterre et c'est eux qui sont légalement responsables. C'est-à-dire que si un jour ils devaient se retrouver à discuter avec un juge à cause de petites histoires d'Adopi, normalement ils sont au moins co-responsables. Et donc j'ai une bonne nouvelle pour vous. Il y a deux semaines de ça, FDN a sorti une offre de VPN. Et donc maintenant, on fournit des adresses IP nettoyées et propres à qui on veut. On fournit aussi de l'IPv6. Donc nous, on fournit de l'IPv4 propre, fixe, à qui on veut. Vous êtes autorisé à héberger des serveurs, vous êtes encouragé à héberger des serveurs, vous êtes autorisé à diffuser des contenus, vous êtes encouragé à diffuser des contenus. Voilà. Alors en fait, au départ, on a développé ça avec d'autres gens dont le but était de fournir de la liberté d'expression dans les pays opprimés, et puis on a décidé qu'on s'en servirait aussi en France. Pour les gens opprimés. Si vous avez des questions.
Merci beaucoup, déjà.
Il y a une main qui s'est levée, là, je l'ai vue.
Oui, à propos de la loi de 1881 qui protège la presse, est-ce qu'elle s'applique qu'à la presse écrite et imprimée ou est-ce qu'elle s'applique aussi au site web de presse ?
Alors, elle s'applique aussi au site web. C'est même la loi, en fait. Attention, hein, la version de 1881, elle a été retravaillée. Hein. C'est la loi qui s'applique et qui définit, en fait, tout le régime légal des blogs. C'est pour ça que légalement, quand tu tiens un blog, tu es tenu de mettre l'adresse de la rédaction et l'identité du directeur de la rédaction pour que la police puisse venir le chercher à 6h du matin et le convoquer quand il y a un propos diffamatoire ou injurieux de publier. Donc si tu ouvres un blog, tu es obligé de mettre ton nom, ton prénom, ton adresse perso, ton adresse physique, sur ton blog. C'est par exemple une des choses parfaitement aberrantes. Pour un organe de presse, dire qu'il doit y avoir de publier dans ce qu'on appelle l'ours l'adresse de la rédaction, le nom du rédac-chef, etc., pour que la police sache à qui s'adresser, c'est raisonnable. Dans le cas d'un blog, c'est très limite. En fait, ça devrait se traduire, et ça se traduit en pratique, mais c'est pas vrai en droit, par le fait que l'hébergeur de ton blog devrait être en mesure de dire qui tu es. Mais typiquement, ce que fait le blogueur le plus connu de France, Maître Eolas, est parfaitement illégal. s'il n'y a pas son nom et son adresse sur son site web. Donc la loi de 1881 s'applique. Mais la loi de 1881 ne protège pas la liberté d'expression. Elle protège la liberté de la presse, et en fait, elle protège les journalistes. Et les journalistes se caractérisent par le fait qu'ils ont une carte de presse qui a été émise par un organe de presse qui dispose d'un numéro de commission paritaire et qui est reconnu, en gros, et qui revient à la presse papier, pour faire simple. Donc toi, quand tu postes sur ton blog, tu n'as pas de carte de presse. Et donc ta liberté d'expression n'est pas protégée. De même que le secret de tes sources n'est pas protégé. Donc le problème de droit, il est là.
Qu'est-ce que vous répondent les politiques quand vous leur parlez de cette espèce de vide juridique sur la liberté d'expression ?
Il n'y a pas de vide juridique, il n'y a jamais de vide juridique. Un vide juridique, ça n'existe pas. L'atteinte à la liberté d'expression n'est pas un délit, c'est pas un vide juridique. La situation juridique est extraordinairement claire. C'est pas interdit, donc c'est autorisé. Ce que me répondent les politiques, alors ça dépend. De manière traditionnelle, quand on parle de défendre les libertés des gens, le politique d'opposition trouve que c'est génial, parce que ça mange pas de pain, c'est pas lui qui ose affaire. Et le politique de la majorité, il fait « compliqué ». On essaye d'inverser un petit peu la tendance. Quand j'essaye d'expliquer que ce que fait Orange vis-à-vis de Google, c'est du racket, je suis vraiment dans ce cas de figure-là. C'est-à-dire que j'ai vraiment l'opposition, quelle qu'elle soit, qui me dit « Ah oui, c'est scandaleux, il faut faire une loi ». Et puis il y a la majorité qui fait « Pouh, c'est compliqué ». Parce que pour repérer, à Bercy, on croise plus de lobbyistes de France Télécom que de ministres. Et pourtant, en ce moment, ils ont des ministres pleins, mais il y a beaucoup, beaucoup de lobbyistes de France Télécom. Ça fait pas très longtemps que j'ai ressorti publiquement l'idée qu'on va arrêter d'essayer de traiter le volet économique de la liberté, de la neutralité, et qu'il faut juste une loi simple qui protège la liberté d'expression. Il faut juste ça. Pour le moment, les politiques se montrent fort favorables. C'est-à-dire qu'en fait, le premier politique qui ose dire la liberté d'expression, on s'en branle, il a perdu. Et si jamais on obtient que le gouvernement actuel ou la majorité actuelle, soit peut venir du Parlement, je m'en fiche, moi, je suis pas regardant, dépose un projet de loi ou une proposition de loi sur le sujet, on laissera en exercice au lecteur le fait de chercher la différence entre un projet de loi et une proposition de loi. Si donc la majorité actuelle dépose un texte de ce type-là, politiquement, il a des chances non nulles de réussir à passer. Et en fait, plus le texte serait court, ramassé et ne contiendrait rien d'autre que ça, plus il a de chances de passer. Parce que personne n'osera s'y opposer. C'est-à-dire, si on suppose un texte qui tient en un article de 5 lignes, le fait de porter atteinte à la liberté d'expression ou à la liberté d'accès à l'information est puni de 5 ans de prison et 500 000 euros d'amende. Point. Oui, c'est... article numéro tant dans le code pénal, ça a 99,9% de chances de passer parce qu'aucun lobbyiste ne pourra lutter contre. Je vois très mal le lobbyiste en chef de France Télécom aller expliquer en public que pour faire son business, il a besoin de torpiller la liberté d'expression. Et je vois très mal une opposition politique quelconque dire que la liberté d'expression, c'est pas bien. Ils vont essayer, ils vont dire que c'est pas bien, mais... Enfin, c'est très bien, mais, tout est dans le mais, hein, dans ce cas-là, ils n'y arriveront pas. Enfin, ils s'en sortiront pas. Et donc, voilà, j'ai bon espoir. C'est pas exclu, c'est dans ma liste de courses. Il y a presque un an de ça, j'avais fait une belle liste de courses, des choses qu'on attendait sur la législature. Qui était en fait ma grille de lecture personnelle des programmes des candidats. Ça, c'était le chapitre 1. Et j'ai un espoir non nul là-dessus. Après, on verra pour le chapitre 2, il est plus compliqué. Il y avait une question au fond.
Quand vous avez parlé des bêtises de l'ICANN, est-ce que c'était bien à propos de la saisie des DNS ?
Oui, c'était bien à ce propos-là.
D'accord, mais après, du coup, est-ce que vous pensez que la situation va rester telle qu'elle est, ou est-ce que l'ICANN va perdre du pouvoir?
Pour le moment, le truc est très crispé. Alors, je resitue un tout petit peu le contexte pour les gens qui n'auraient pas suivi. Jusqu'à récemment, donc l'ICANN, qui est en gros l'autorité normative, alors que l'IANA est l'autorité technique. Jusqu'à présent, les règles d'intervention disaient qu'on supprime un nom de domaine uniquement avec une décision de justice, et quand c'est le nom du domaine qui est l'infraction. Vous voyez, si je décide de déposer le nom de domaine orange.com, on peut considérer que le simple fait que je détienne ce domaine orange.com est en infraction avec la marque déposée Orange. Vous voyez, moi je trouve curieux qu'on puisse déposer des fruits comme marque. Je vais déposer fraises et puis... Mais, bon, les tribunaux acceptent qu'on puisse déposer comme nom de marque un nom commun. Et ce qui, jusqu'à présent, les autorités n'intervenaient sur les noms de domaine que quand c'était le nom lui-même qui était un problème. Quand c'était le nom qui était l'infraction. C'est ce qui avait valu un procès autour de Je boycotte Danone, par exemple. Vous voyez, Je boycotte Danone.com, ça avait fait un procès amusant et perdu par Danone, mais qui était pris comme des manches. Mais voilà, c'était vraiment, on portait sur le fait que le nom du domaine était l'infraction. Le changement qui a eu lieu aux États-Unis, c'est de dire que quand le nom de domaine est utilisé pour un site web qui fait quelque chose d'illégal. Vous voyez ? Si le nom de domaine est utilisé pour un site web qui fait quelque chose d'illégal, alors on peut saisir le nom de domaine. C'est d'une stupidité sans nom. C'est totalement ahurissant en termes de droit. Mais vous ne vous rendez même pas compte de la conséquence. Pour mémoire, l'État, la France, a été condamné à un nombre faramineux de reprises par la Cour européenne des droits de l'homme. Vous êtes au courant sur plein de trucs. Sur les histoires de garde à vue sans avocat, sur... Il y a un truc. Donc l'État a fait un truc illégal, on est bien d'accord. Donc on va saisir gouv.fr. Vous voyez ? Comment c'est malin. Orange a été condamné de manière définitive en mai 2012 pour entente illicite sur le marché du mobile entre 97 et 99, si ma mémoire est bonne. Orange a été condamné à quelque chose d'illégal, on va lui reprendre orange.fr et puis orange.com, non? C'est quand même finement débile comme truc. Mais pourquoi ça s'applique aux pirates américains et ça ne s'applique pas à la multinationale? C'est en fait, la justice n'est pas la même selon qu'on est... un petit pirate ou une grosse multinationale. Dans un cas, on fait un truc illégal, on garde son nom. Dans l'autre cas, on fait un truc illégal et on perd son nom. C'est très bizarre. C'est très malsain. Et ça, c'est un revirement de jurisprudence très récent aux États-Unis. En fait, les juges américains, en appliquant le droit local, sont arrivés à la conclusion qu'on pouvait saisir le nom de domaine alors que le nom de domaine n'était pas l'infraction. C'est là-dessus qu'ils ont fait tomber le nom de domaine de Megavideo. Enfin, de méga upload et donc méga vidéo et donc etc. Je trouve qu'il n'y avait même pas de décision de justice. Mais c'est cette approche-là du droit qui s'appuie. Or ça, c'est du droit d'une part complètement idiot, mais surtout c'est du droit américain. Et ça devient très bizarre que l'ICANN applique du droit qui ne relève pas de l'évidence pure et qui n'existe que dans un pays donné. Donc ça, c'est un changement d'une part de la jurisprudence des tribunaux américains sur le sujet, ce qui est très embêtant en termes de logique. Vous voyez, tu as été condamné par la justice, tu n'as plus le droit de porter ton nom et ton prénom. Ça revient à ça, hein. Dénommer les choses, enlever le nom des choses, c'est très curieux comme idée. Donc il y a ce revirement de la justice américaine et il y a le fait que l'ICANN ait accepté. Ça, c'est très bizarre que l'ICANN ait accepté et c'est une très grosse bêtise. Pour le coup, il y a, si ce genre de bêtises se confirme, il va y avoir des tendances de plus en plus fortes à dire que, puisque c'est comme ça, je vais faire mon DNS qui respectera ou pas les décisions de l'ICANN et d'IANA. Et ce genre d'approche-là amène à des choses très différentes et très particulières. Quoi. Ça amène à un Internet qui fonctionne moins bien, mais d'un autre côté avec moins de centres et avec peut-être moins d'ânerie. Mais voilà, c'était bien à ça que je faisais référence quand je disais l'ICANN déconne. Et là, ils déconnent beaucoup. Ils ont tort. Et pour le coup, tout Internet repose sur le fait que ces quelques organismes-là, ICANN, IANA, etc., sont le plus flat possible, le plus neutre, sans la moindre aspérité, ne prenant aucune décision sur rien, n'appliquant même pas les décisions quand elles sont un tout petit peu embêtantes. Alors, je ne sais plus quel était le cas. C'était sur la Yougoslavie, je crois. Ça n'existe plus, la Yougoslavie, c'est coupé en deux maintenant. Il y a une République tchèque et une République slovaque. Mais le TLD existe toujours. Et normalement, il aurait dû être enlevé, puisque ce n'est plus un pays reconnu par l'ONU. Mais il se trouve qu'il y a une poignée d'administrateurs système qui ont fait « Non, je garde mes domaines ». Et l'ICANN a fait « Bon, d'accord ». On s'en fout, garder un nom de domaine, c'est rien. Mais voilà, ils ont décidé de ne pas appliquer la règle. Et c'est très curieux qu'ils n'aient pas décidé de faire la même chose vis-à-vis des tribunaux américains. Mais très 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 curieux. Pas le problème. L'ONU aussi, c'est aux États-Unis, hein, je sais pas. Si l'ICANN avait décidé de ne pas appliquer, je pense que le procès n'aurait pas été très loin, quoi. L'ICANN n'aurait été pas condamné à grand-chose. Enfin, voilà, c'est très très bizarre. Que l'ICANN se soit au moins pas défendu là-dessus, c'est très 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 bizarre. Voilà, ça c'est un élément de droit international sur Internet qui déconne très sévèrement. Il y a d'autres questions, peut-être moins techniques.
Alors là, pour le coup, c'est vraiment pas du tout une question technique. Je voudrais revenir. À un moment, vous avez évoqué YouTube et en gros, vous avez dit que c'était de la faute des utilisateurs de Free Kikoulol si le réseau était engorgé.
Ouais.
Parce que YouTube, justement, c'était un organisme simplement de diffusion. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas considérer que YouTube a créé un peu, en quelque sorte, une entité particulière en favorisant les interactions entre les individus? Et vous avez défini dans l'introduction la société comme étant l'interaction entre individus. Et est-ce que YouTube, en créant finalement de nouvelles entités sociales, ne devrait pas être condamné à ce titre-là?
Non. YouTube rend des choses possibles. Mais, comme disait Coluche, quand on pense qu'il suffirait que les gens arrêtent d'en acheter pour que ça ne se vende plus. C'est exactement ça. C'est un peu comme si on reprochait à tel ou tel auteur d'avoir écrit un livre très populaire et où du coup, tous ces gens qui achètent le livre sur Amazon, ça sature la poste. Bah ouais. Enfin, d'un autre côté, la poste, c'est son boulot de transporter les colis, quoi. Et donc, fondamentalement, YouTube a mis à disposition un service et les internautes s'en servent. Mais il ne faut pas croire que YouTube parasite Free. YouTube met à disposition un service. Les abonnés de Free, qui sont les clients de Free et qui payent, souhaitent accéder à ce service. Moi, si quand je paye mon FAI, je ne peux pas accéder au contenu que je veux, ce n'est pas la peine que je paye mon FAI. Vous voyez ? Ce n'est pas comme ça que ça marche. Le modèle dans le monde postal est à l'envers par rapport à Internet. Sur Internet, c'est le récepteur qui paye. Je veux consulter quelque chose, donc je me dote d'un accès. Je veux pouvoir aller regarder des vidéos, donc je me dote d'un accès avec un débit suffisant pour regarder des vidéos. Si j'ai pas envie de regarder de vidéos, je prends un accès avec beaucoup moins de débit. Si j'ai pas envie d'un accès permanent et que j'ai juste besoin d'accéder à mon mail, je prends un accès qui fonctionne 3 minutes par jour pour relever le mail, ça suffit. Donc, dans le monde d'Internet, c'est le récepteur qui paye. Toujours. Et c'est parce que j'ai demandé à consulter un contenu que je génère du trafic sur le réseau. C'est pas YouTube qui génère le trafic, c'est moi qui génère le trafic. C'est pas YouTube qui émet, c'est moi qui aspire. Et c'est bien dans ce sens-là que ça marche. Le fait générateur n'est pas celui de YouTube, c'est le mien. YouTube n'est pas le fait générateur du trafic. Ce qui fait que telle vidéo a beaucoup de succès, c'est la faute du pleu-pleu qui a uploadé la vidéo. Et des millions d'autres qui ont décidé d'aller la regarder. YouTube n'est pour rien. YouTube a juste mis à disposition l'outil.
Enfin, si on prend le problème en termes d'externalité, enfin, à ce moment-là, faut attribuer, enfin, faut que quelqu'un paye pour ses externalités. Pourquoi ce serait pas YouTube ?
Mais parce que YouTube n'est pas le fait générateur. C'est moi qui dois payer, c'est moi qui veux aller regarder la vidéo. Je paye d'ailleurs déjà pour ça. Oui. YouTube n'est pas une externalité. La seule externalité qu'a YouTube vis-à-vis de Free, c'est une externalité positive. C'est une des autres façons de l'approcher. Alors, moi j'ai deux explications possibles. Soit on a dans la salle une unanimité de fétichistes du cuivre, que je ne crois pas, mais vous avez tous chez vous, tous, je suis certain, de ces guirlandes en cuivre qu'on met au niveau des murs. Tous, vous avez ça. En général, elles sont rouges et bleues, on y met des interrupteurs et tout. Vous voyez ? Qu'on raccorde à un tableau avec un truc bleu, avec un bidule qui tourne de chez EDF. Vous avez tous des fils de cuivre dans vos murs. C'est pas pour faire joli. C'est pas pour la beauté de l'élément en cuivre. C'est pas pour l'esthétique du décodeur, enfin du compteur électrique ou du décodeur télé que vous êtes abonné à tel ou tel réseau. C'est pas pour la beauté de la Livebox que vous êtes abonné chez Orange. Si vous acceptez de faire des trous dans tout le mur de votre maison pour passer des fils et pour mettre des interrupteurs, c'est pas pour la beauté du cuivre. C'est pas pour l'esthétique de l'interrupteur. C'est pour l'électricité qui circule dedans. Si vous acceptez, je sais qu'il y a aussi des fétichistes du tuyau, mais vous avez tous énormément de tuyaux chez vous, en cuivre ou en plastique, ou etc. C'est pas pour la beauté du tuyau, c'est pour avoir de l'eau. Vous voyez, de l'eau. C'est pour boire, se laver, faire la cuisine, tout ça. Et vous payez cher, hein, pour tout ça. C'est-à-dire que quand vous regardez combien ça coûte de refaire l'installation électrique d'une baraque, vous payez un bras. Hein. Ce n'est pas pour la beauté du cuivre. C'est pour l'électricité qui est dedans. On ne paye jamais pour l'accès au réseau. L'accès au réseau n'a pas de valeur sociale. Si vous décidez d'acheter une belle Mercedes toute neuve plutôt qu'une vieille Peugeot toute pourrite, c'est deux fois sur trois pour des raisons sociales. C'est pour en avoir une plus grosse que le voisin, c'est pour mieux draguer les filles, c'est pour aller plus vite au boulot, etc. C'est pas pour des raisons de vraie efficacité. Il y a très très peu de raisons de vraie efficacité derrière. La vieille Peugeot toute pourrite vous amène au boulot à peu près à la même vitesse. Quand vous décidez d'acheter un iPhone plutôt que n'importe quel autre smartphone qui est trois fois moins cher, c'est juste pour être à la mode. Quand vous décidez d'acheter telle ou telle paire de godasses trois fois plus cher que le modèle qui est strictement nécessaire et efficace, c'est pour des raisons esthétiques, pour des raisons de mode, qui sont de ce que j'appelle de la valeur sociale de l'objet. Ça vous met en valeur dans la société. Il arrive que vous montriez avec une certaine fierté votre déco intérieur à vos amis quand ils viennent. Je pense que vous leur montrez jamais ni la qualité des fils de cuivre dans les murs, ni votre compteur d'eau, ni votre compteur électrique, et seulement pour quelques très rares pervers, votre Livebox. D'accord ? Il n'y a pas... La seule valeur dans l'économie des réseaux est la valeur de l'usage. La seule chose qui a de la valeur dans un réseau, c'est l'usage. Vous n'acceptez de payer l'abonnement à l'eau que parce qu'à un moment, vous pouvez avoir de l'eau. Ce n'est pas pour la beauté du tuyau. Vous n'acceptez de payer un abonnement à un fournisseur d'accès Internet que parce qu'il vous permet l'accès au service. La seule chose qui a de la valeur là-dedans, c'est le service. La seule source de valeur, c'est le service. 9 fois sur 10, le service, c'est vous d'ailleurs, mais... La seule chose qui a de la valeur, c'est le service. Si on devait parler en termes d'externalité, YouTube est une externalité positive pour Free. Parce que ça motive les gens à prendre un accès Internet, ils pourront regarder des vidéos de chats. Et YouPorn est une valeur encore plus positive. Est-ce qu'il y a une autre question ? J'espère que j'ai répondu de manière assez claire.
Vous avez parlé de l'espoir d'une loi protégeant la liberté d'expression en France.
Hein. Ouais.
Donc ce serait un peu comme le miroir du premier amendement de la Constitution des États-Unis.
Non.
Parce que justement, le premier amendement donc protège la liberté d'expression un peu à tout va.
Non.
Mettant tout et n'importe quoi.
Alors c'est très très différent. Le premier amendement, d'abord, c'est pas une loi, c'est un amendement de la Constitution américaine. Je sais pas si vous savez ce qu'il raconte le premier amendement. Il dit « Le Congrès ne fera pas de loi ayant pour effet de limiter la liberté d'expression. » Il est bien du domaine constitutionnel. Donc il est interdit aux États-Unis, depuis à peu près la création de la Constitution, parce que c'est le premier amendement qui a été fait sur la Constitution, ça remonte un peu. Hein. Le quatrième, ça doit être celui qui défend le port d'armes. Donc ça date d'avant la défense du port d'armes aux États-Unis, c'est-à-dire si c'est un truc fondateur quand même. Le premier amendement dit qu'il est interdit aux législateurs américains d'écrire une loi qui porte atteinte à la liberté d'expression. C'est-à-dire que typiquement toutes les lois françaises sur l'interdiction des propos racistes ou des propos sexistes ou des propos homophobes ou de l'incitation à la haine raciale ou etc., 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 tout ça, aux États-Unis, on ne peut pas faire ces lois-là parce que la Constitution interdit de faire ces lois-là. La base du droit français, la base de la définition en France de la liberté d'expression, c'est ce que j'ai lu tout à l'heure, et qui dit quand même, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Donc depuis 1789, les textes constitutionnels français, y compris la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui est donc de 1789, qui est reprise dans le préambule de la Constitution de 46, qui est lui-même repris dans le préambule de la Constitution de 58. Donc ce texte, qui est une des bases constitutionnelles en France depuis plus de deux siècles, dit bien, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Il se trouve que la loi a déterminé une foultitude de cas d'abus de la liberté d'expression, qui sont tous les cas d'injures, de diffamation, de propagation de fausses nouvelles, d'incitation à la haine raciale, d'appel à machin, de... Il y en a, mais long. Je ne parle pas de supprimer ça. Ça, ce sont tous les textes qui limitent la liberté d'expression. Moi, ce que je veux, c'est juste qu'il soit créé un délit qui est l'entrave à la liberté d'expression. Je ne propose pas qu'on change le reste du droit. Je veux juste que Monsieur X ou Monsieur Y n'ait pas le droit de porter atteinte à la liberté d'expression. Ce qui n'est pas la même chose. On est bien d'accord. C'est pas du tout la même chose. Je refuse que Monsieur Facebook ait le droit de décider ce qui est publiable ou ce qui ne l'est pas. Ça ne me va pas. Il y a quelqu'un pour décider de ce qui est légal et de ce qui ne l'est pas, c'est le législateur. Il y a quelqu'un pour décider de ce qui est conforme à la loi ou de ce qui ne l'est pas, c'est le juge. Monsieur Facebook, il ne fait pas partie du pouvoir législatif en France et il ne fait pas partie du pouvoir judiciaire. Alors il est prié de transporter. C'est juste ce point-là. À l'heure actuelle, il n'est... en fait, porter atteinte à la liberté d'expression de quelqu'un n'est pas un délit. D'accord ? Dans la Déclaration des droits de l'homme, il y a le fait que, par exemple, la propriété, la définition de la propriété comme étant dans les droits de l'homme, c'est l'article, je ne sais plus combien, c'est le tout dernier, c'est celui qu'ils auraient dû enlever. C'est celui de trop. Où ils définissent le fait que la propriété est un des droits de l'homme. Ça ne suffit pas. On ne peut pas aller devant un tribunal avec la Déclaration des droits de l'homme. Ça ne marche pas comme ça. Parce que la Déclaration des droits de l'homme ne définit pas des délits. Elle définit des droits. Ce qui définit des délits, c'est la loi. Et alors la loi qui dit qu'on n'a pas le droit de voler la propriété d'autrui, il y en a des pages et des pages. Et ça finit au tribunal fort souvent. Toutes les fois qu'on se fait tirer sa bagnole, ça finit au tribunal. Mais il y a bien une loi qui dit la soustraction du bien d'autrui est punie de machin. D'accord ? C'est très important. S'il n'y avait pas cette loi, on ne pourrait pas faire valoir son droit à la propriété. Eh bien, à l'heure actuelle, parce qu'il n'y a pas de loi qui fasse de l'entrave à la liberté d'expression un délit, on ne peut pas faire valoir ce droit. Si j'empêche la liberté d'expression de quelqu'un, il n'y a pas de base légale pour porter plainte. Et c'est un manque. C'est ce qui fait que le droit à la liberté d'expression est purement théorique. Il manque un délit, qui est le fait d'empêcher la liberté d'expression. Et donc, non, ce que je propose n'est absolument pas similaire au premier amendement américain. Rien à voir. Tout le droit français continuerait à s'appliquer. C'est les abus définis par la loi, ça s'applique, tout va bien. Il faudrait ramener le micro devant.
Bonjour. Je ne comprends pas bien, en fait, pourquoi un transporteur, même dans le cas d'Internet, n'aurait pas un droit de regard sur ce qu'il transporte, comme un routier a le droit d'émettre des limitations sur la nature de ce qu'il transporte, si c'est enflammable ou explosable, ou la poste a...
Tous les paquets IP explosifs ou inflammables seront refusés par le transporteur. C'est la vraie bonne réponse. C'est la vraie bonne réponse. Il se trouve que sur Internet, il n'y a pas de contenu inflammable. Mais une fois qu'on a démontré que le contenu transporté n'est ni inflammable ni explosif, le transporteur n'a pas le droit de regarder. La poste n'a pas le droit d'ouvrir les lettres. C'est fondamental en droit. C'est une des bases du droit sorti de la Révolution. La poste n'a pas le droit d'ouvrir les lettres. C'est très important. Le transporteur transporte, point. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Après, on peut imaginer que M. Facebook dise, c'est possible, si j'essaye de transposer l'inflammable, vous voyez, on pourrait imaginer que M. Facebook ou M. YouTube disent tel contenu, j'ai identifié qu'il va générer une telle quantité de buzz et de trafic et de hits que je ne vais pas tenir le choc. Et que donc, t'es gentil, camarade internaute, j'aimerais que tu le publies ailleurs. Moi, je n'ai pas les épaules pour. Dans mon jeune temps, c'est ce qu'on appelait se faire slash doté. Vous voyez ? Vous étiez l'auteur d'un site web, tranquille, avec vos 4 visiteurs par jour, la grande fête, ça se passait très gentiment. Il y a un crétin qui se mettait à en parler sur Slashdot, ça finissait à la une du truc, et là, vous aviez toute la planète qui venait regarder votre site web. Normalement, dans les 2 minutes, il était éteint, par terre, tout saturé de partout, etc. On peut imaginer que dans ce type de contexte-là, il puisse y avoir une espèce de clause technique sur non, ça je peux pas le transporter, ça va générer tellement de trafic que tout mon réseau va exploser, etc. Le contenu que Facebook pourra pas gérer, je pense qu'il n'est pas encore né. Mais voilà, faut repérer, ça voudrait dire ça. Ce serait ça l'équivalent du... Et je pense que ça, aucun juge condamnera. Aucun. Même si la loi dit le fait d'entraver machin est puni de 5 ans de prison, le juge dira non, vous aviez un motif légitime. Était l'obligation de continuité de service. Mais de la même manière que le Code des postes et communications électroniques dira, parce qu'une fois que la loi que j'appelle de mes voeux sera passée, si elle passe, il y aura plus tard le fait de tirer les conséquences de cette loi dans les autres codes. Et il y aura bien évidemment un texte qui dit les opérateurs sont dégagés de leurs obligations quand il y a des impératifs de continuité de service. C'est évident, il n'y a jamais eu de contestation là-dessus. Dans le débat sur la neutralité du net qui fait rage depuis des années, à aucun moment personne n'a remis en cause le droit pour un opérateur d'intervenir de manière y compris violente pour rétablir la continuité du service. C'est-à-dire que le réseau, pour x, y, z raison, est en panne, parce qu'il y a une fibre optique qui a cramé, parce qu'il y a un routeur qui a planté, parce que machin, truc, bidule, donc le service n'est plus rendu, il faut intervenir, et pour pouvoir intervenir et rétablir le service, il va falloir jeter une partie du trafic parce que ça rentre plus. Tout le monde a toujours été d'accord sur le fait que les opérateurs ont un droit complet d'intervention dans ces cas-là, pour rétablir le service. Et c'est l'équivalent de la clause qu'un transporteur peut émettre en disant pas de produit inflammable, pas de produit explosif. Ça pose pas de problème.
Et si le FAI en question stipule à partir de demain dans les contrats qu'il fait signer à ses clients qu'il l'autorise à utiliser... Enfin, son biais pour transporter n'importe quel type d'IP, sauf ceux en provenance de tel ou tel site.
Alors en fait, c'est exactement pareil que si moi, en tant que maire du village, je publie un décret municipal disant que je marierai tous les couples de sexe différents. Ça va très mal se finir pour moi en termes de loi. Il y a des choses qu'on n'a pas le droit d'écrire dans la loi. C'est comme ça. Si je dis dans les statuts de FDN que ne peut être élu président qu'un homme, il va y avoir un vrai problème. Si je dis que le président de FDN doit être blanc, il va y avoir un vrai problème. Il y a des choses qu'on n'a pas le droit d'écrire dans un contrat. Et en fait, c'est le principe de... c'est ce qu'on appelle une clause réputée non écrite. C'est-à-dire que si tu écris un truc illégal dans un contrat, d'abord, tu vas t'attirer des problèmes juridiquement. Si ton contrat est traduit... En fait, un contrat qui revient à un agrément entre deux parties de faire quelque chose d'illégal, c'est une très mauvaise idée. C'est à peu près la définition d'une mafia. Donc ça se termine mal, en général, très très mal. C'est association de malfaiteurs, association professionnelle dans le but de commettre un délit. Enfin, ça se termine très mal pour tout le monde. Mais surtout, quand il y a dans un contrat par ailleurs raisonnable entre deux personnes une clause qui est contraire à la loi, on considère qu'elle est réputée non écrite. C'est-à-dire que bah, puisque c'est contraire à la loi, c'est qu'on n'a pas pu l'écrire. Bon, ben, puisqu'on n'a pas pu l'écrire, on va l'enlever, puis on va faire comme si elle n'était pas là. C'est à peu près comme le contrat que tu as signé avec Facebook qui dit que tu lui lègues ton corps, ton âme, tes trois premiers enfants, la maison de ta grand-mère. Tu sais celui où tu as cliqué sur « suivant ». Tu as vérifié ce qu'il y a écrit dedans ?
Non.
Bon, ben voilà. En fait, il y avait tout ça dedans. Ils peuvent pas écrire. Enfin, ils peuvent toujours l'écrire dedans, juste ça n'a pas de valeur juridique.
Merci.
Est-ce que le fait de faire une loi uniquement française ne poserait pas problème au regard du fait qu'Internet est très internationalisé et que les États-Unis pourraient continuer de dire on ferme Mega Upload ?
Bien sûr que les États-Unis pourront continuer de dire on ferme Mega Upload. De même que, je ne me fais pas d'illusions, la Chine pourra continuer de dire « ta gueule ». Puis elle va continuer à le dire. De même que l'Iran continuera à filtrer. De même que... Ouais. Bah oui. Moi, pour le moment, j'essaye de faire en sorte que la liberté d'expression soit protégée en France. Là, ça va. Déjà, ça me paraît ambitieux. Hein. Avec mes frêles épaules et ma cheville cassée, si j'arrive à faire en sorte que la liberté d'expression soit protégée en France, je serai déjà vachement fier de moi. Tu vois, je vais me payer une cuite le jour où la loi est votée, un truc bien. Si elle l'est. Si les Ricains veulent protéger la liberté d'expression, qu'ils se démerdent. C'est leur problème. Nous, on leur aura montré l'exemple. Il faut savoir que la protection des droits de l'homme... le concept est français, comme la séparation des pouvoirs, hein, c'est d'origine française ce truc-là. Ça a été d'abord réalisé par les Américains, puis une fois qu'on a validé sur prototype, on l'a repris chez nous. C'est comme le concept de liberté d'expression, c'est quelque chose qui est français à l'origine, dont on ne s'est jamais servi en interne, que par contre les Ricains ont très vite adopté et en ont fait leur premier amendement. Donc le concept de liberté d'expression, ces notions-là sont des notions qui ont été développées par les philosophes des Lumières, en grande partie en France. Voltaire a beaucoup contribué à la notion de liberté d'expression. Donc voilà, faut savoir que quand les textes sur lesquels on bosse en France sur les questions de liberté fondamentale, il arrive qu'ils soient repris. Les idéaux de la Révolution française ont créé la Constitution américaine avant la Révolution française. Donc voilà, ce qu'on faut pas croire, on n'est pas si ridicule que ça en France en fait.
Et alors question corollaire, est-ce qu'il y a un pays dans le monde qui a une loi qui empêche les entraves à la liberté d'expression qu'on pourrait reprendre ?
Il semblerait bien que l'Islande, oui, et ça. Je ne sais pas si vous avez tous suivi pourquoi l'Islande s'est dotée de ça. En fait, le système bancaire islandais a explosé dans la crise 2007-2008, hein, celle la récente là. Et il se trouve que Wikileaks a pu diffuser un certain nombre de documents qui montraient que, en gros, les dirigeants en Islande savaient que le système était malsain, s'en foutaient plein les fouilles, savaient que ça exploserait un jour ou l'autre, et n'ont rien fait pour se protéger, mais par contre, s'en sont mis plein les fouilles. Et en gros, voilà, ça a été, Wikileaks a été considéré en Islande, en gros, comme le sauveur du pays. C'est-à-dire comme étant le machin qui a permis à cette information-là de sortir et aux Islandais d'ouvrir les yeux sur le fait qu'ils étaient un paradis fiscal, sur le fait que c'était géré n'importe comment en matière de gouvernance, etc. Et en gros, en remerciement, si je puis simplifier et caricaturer le propos, ils se sont demandé, ok, comment on fait pour s'assurer qu'il y ait toujours une structure de ce type-là capable de nous alerter quand les gouvernements déconnent ? Et les Islandais ont cherché, alors il faut repérer, hein, ça a fait sauter un gouvernement, ça a fait changer des bouts entiers de la constitution du pays, enfin, c'est parti très loin ce problème en Islande. Et donc ils se sont posé la question sur voilà, comment on fait pour être certain que chez nous, un lanceur d'alerte sera protégé et qu'il aura la liberté de s'exprimer pour dire quand le gouvernement déconne. Et donc ils ont cherché comment faire ça, et ça s'est traduit par une loi de protection de la liberté d'expression. Qui, paraît-il, est pas mal foutue. J'ai pas eu l'occasion de la lire, parce que je parle pas islandais, mais... Voilà, faut... est-ce qu'il y a des pays ? Oui, l'Islande. Faut bien commencer quelque part, hein.
Et d'un point de vue technique, c'est pas plus simple de le faire à la Commission européenne ?
Non, c'est beaucoup plus compliqué. La Commission européenne croit que l'alpha et l'oméga du bonheur de l'humanité sur Terre est la concurrence libre et non faussée. Si tu arrives à trouver un problème qui se pose quelque part sur Terre à l'humanité, dont tu n'arrives pas à démontrer qu'il est équivalent au fait d'établir la concurrence libre et non faussée, alors c'est que tu t'es trompé et que le problème n'existe pas. C'est le côté Shadok de la Commission, ça. Donc les problèmes sanitaires, c'est des problèmes de concurrence libre et non faussée. L'industrie du médicament, c'est de la concurrence libre et non faussée qui ne marche pas. Tout ça. C'est tout problème qui se pose sur Terre, y compris la calvitie et le retour de l'être aimé, c'est un manque de concurrence. Voilà. La Commission européenne ne sait pas faire autre chose. D'un autre côté, c'est normal, c'est sa seule compétence. On s'entend, j'entends compétence au sens juridique. C'est le seul domaine dans lequel elle a le droit d'agir. Quand le seul outil dont tu disposes, c'est le marteau, tous les problèmes ressemblent à des clous. Voilà. La Commission européenne ne peut faire qu'une seule chose dans la vie, c'est verser des subventions de politique agricole commune ou promouvoir la concurrence libre et non faussée. Elle n'a que ces deux attributions-là. Donc, quel que soit le problème que tu amènes devant la Commission européenne, elle va dire ça se résout avec de la concurrence libre et non faussée. Vu que c'est visiblement pas de la politique agricole commune, il y a que si tu vas parler betteraves, peut-être ils auront des idées autres. Mais la protection des libertés ne fait pas partie du domaine communautaire. Voilà. De mémoire, la protection des libertés, ça doit faire partie des acquis communs. C'est-à-dire que ça fait partie des choses qui doivent exister dans un pays pour qu'il puisse candidater. C'est une des raisons, c'est un des trucs sur lesquels on fait chier la Turquie. Ils sont pas du tout conformes aux droits de l'homme, ils font des gardes à vue sans avocat, enfin un truc de dingue, qu'on n'imagine pas dans un pays civilisé européen, vois-tu ? Par exemple. C'est dans les prérequis pour rentrer, c'est pas dans les compétences de la Commission européenne, elle n'a pas le droit de légiférer là-dessus, il me semble. Elle a le droit au mieux d'émettre quelques recommandations, choses comme ça.
Plus de questions ? D'accord, très bien. Merci beaucoup encore.
Il n'y a pas de quoi.
Malheur de l'éteindre.
Merci à tous d'être venus et merci aux conférenciers. Et puis on espère que ça vous a plu. Donc l'installe partie, c'est tous les ans, il y en aura une l'année prochaine. N'hésitez pas à revenir.